Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Mon fils était ici aujourd'hui et il a dit, « Papa, j'aurais souhaité que nous ayons vu cette église avant de commencer à construire la nôtre. C'est un très bel endroit. » Et il a parlé de... Il a dit, « Je n'ai pas encore rencontré le ministre, mais si c'est quelqu'un d'aussi gentil que sa femme, alors c'est certainement quelqu'un de gentil. » Donc, nous sommes heureux d'être ici. Et j'attends avec impatience la réunion de ce soir. Que Dieu réponde ses bénédictions sur nous et qu'il nous aide. Maintenant, nous, à peine entrés, j'ai entendu frère Williams, je crois, qui mentionnait le fait qu'on serait au Ramadan. Et j'imagine qu'on a déjà dû faire l'annonce à ce sujet. D'habitude, on se charge de tout ça avant que j'arrive. Et nous nous attendons vraiment à passer des moments merveilleux à la convention. Et moi, mon rôle ici, c'est simplement de circuler un peu partout, rencontrer les frères, être en communion avec les gens et prier que Dieu nous stimule comme il convient. Et alors, nous pourrons aller directement au Ramadan pour une glorieuse série de réunions. Et donc, nous essayons de visiter le plus grand nombre d'églises possible avant cela. Et nous passons des moments merveilleux. Nous passons certainement des moments merveilleux de communion fraternelle parmi nos frères. Et d'habitude, tout le monde sait que je ne suis pas un prédicateur extraordinaire. Je ne suis qu'une sorte de roue de secours. Mais mon ministère, c'est de prier pour les malades. Et nous avons eu des soirées tellement bondées et tout, qu'on n'a pas assez de place pour cela. Et nous allons essayer, quand nous serons dans un endroit où ce sera possible, là, de distribuer des cartes, de faire entrer les gens et prier pour eux. Mais d'avoir une seule soirée de réunion à la fois, ceux qu'on n'aurait pas fait passer ce soir-là, on les enverrait là, dans un autre endroit le soir suivant, et ensuite ailleurs, dans un autre endroit. De sorte que je fais simplement un petit exposé chaque soir pour les gens. Et je fais de mon mieux pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ, celui que nous aimons et en qui nous croyons tous, et que nous sommes en communion les uns avec les autres. Je suppose que vous avez entendu parler de l'accident qui vient d'avoir lieu au coin de la rue, il y a quelques instants. Je ne sais pas si cet homme a été tué, ou quelle que soit cette personne, la voiture est passée là. Nous nous sommes simplement arrêtés pour dire un mot de prière, il y a quelques instants. Environ deux pâtés de maison plus haut, quelqu'un a été percuté de côté et a été projeté plus loin dans la rue. On a recouvert une personne corpulente là-bas. Et les agents de police étaient là, mais je ne crois pas que l'ambulance soit déjà arrivée là. S'il n'a pas été tué, il a été percuté de ce côté-ci et il a été projeté à travers la portière de l'autre côté. Donc, ça a dû être un coup violent. Vous savez, nous devons servir Dieu chaque minute. Nous ne savons pas à quel moment ces choses pourraient arriver. Peut-être pensons-nous que ça ne nous arrivera pas à nous. Mais vous savez que c'est possible. Vous savez, eh bien, je crois que Jésus a dit, « Tenez-vous prêts, car nous ne connaissons ni la minute, ni l'heure à laquelle nous pourrions être rappelés. Puis nous irons à un endroit où il n'y a pas d'accident ni de difficulté. Nous sommes tellement heureux d'avoir la promesse d'un tel lieu. Vous savez, la pensée même, ce soir, de voir que nous aspirons à un tel endroit, c'est bien la preuve qu'un tel endroit existe. Voyez, et nous savons que tous les négatifs, toutes les ombres, qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour produire une ombre. Une ombre est un reflet. Si donc il y a une vie comme celle-ci, c'est la preuve que c'est une ombre. Il y a alors une vraie vie quelque part qu'elle reflète. Voyez, vous remarquez un arbre, que c'est beau un arbre. Et vous savez ce que c'est? C'est le type négatif de l'ombre, de l'arbre de vie qui est au ciel. Or, vous savez, quand Dieu est venu sur la terre, quand il couvait la terre au commencement, et peut-être que la première chose à apparaître, c'était un têtard, comme les scientifiques cherchent à le dire. La chose suivante, c'était peut-être quelque chose, je crois, à la véritable évolution chrétienne, mais je ne crois pas que tout provient d'une seule et même cellule. Je crois que Dieu a créé un têtard, et puis il a créé un poisson. Ensuite, il a créé quelque chose d'autre. Et alors, je crois à l'évolution, pas par la même cellule, mais une créature différente, tout le temps. Et ensuite, il a continué de créer des espèces supérieures. Et au bout d'un moment, elle a reflété celui qui couvait. c'est-à-dire Dieu. Or, pour démontrer que c'est bien vrai, quand Dieu a été fait chair, c'était Jésus-Christ, un homme. Voyez, donc, non pas un ange, un homme. Alors, ça montre bien que cela l'a reflété. Et, oh, cette vieille Bible est pleine de ces bonnes vieilles pépites. J'aime vraiment prospecter, pas vous? Et entrer là-dedans, et d'y enlever toute la poussière, et la regarder, et voir ce qu'il en est. C'est que les joyaux, vous qui habitez ici en Arizona, vous savez que les grands joyaux viennent de la poussière de la terre. C'est de là qu'ils proviennent. Et les joyaux de Dieu sont aussi tirés de la poussière. Et nous sommes si heureux qu'il nous donne le privilège d'entrer dans sa grande affinerie et que toutes les impuretés soient ôtées. Vous savez comment ils s'y prenaient? Bien sûr, vous qui habitez l'Arizona, vous savez comment ils, avant qu'ils aient des fonderies, comment ils affinaient l'or. On dit qu'ils prenaient l'or et qu'ils le battaient. Les Indiens d'antan faisaient ça. Ils le battaient et ils le retournaient et ils le battaient et le battaient jusqu'à ce qu'ils l'aient débarrassé de toutes les impuretés à force de le battre. Et la façon dont ils savaient qu'on s'était débarrassé de toutes les impuretés, toute la pyrite et les choses qu'il y a là-dedans, tout ça, il le savait quand le batteur voyait son reflet là-dedans. Il pouvait se voir. Alors, il savait que ça devenait clair, que ça reflétait son image à lui. Et vous savez, je pense que c'est ce que Dieu veut faire avec son Église, faire sortir tout ce qui est du monde à force de la battre, jusqu'à ce que le reflet de Jésus-Christ habite en chacun de nous et que nous reflétions sa vie. C'est alors que nous sommes prêts pour son... Il se reflète à travers nous à ce moment-là, quand nous rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur l'exemple, le chef et le consommateur de notre foi. Jésus-Christ. Nous en sommes si heureux. Bon, d'habitude, je dis chaque soir, j'ai dit à frère Carl Williams, j'ai dit, « Frère Carl, ces gens ne désirent pas m'entendre encore. J'étais un peu partout, dans ces vallées. Je les gardais pendant 2 ou 3 heures le soir. » Il a dit, « Mais venez donc. » Alors je vous remercie de votre patience en m'invitant à revenir. Et maintenant, chaque soir, j'ai parlé à ma femme tout à l'heure. Ah, elle est à Tucson maintenant. Et j'ai dit, « Quel temps fait-il ? » Elle a dit, « Ça se réchauffe. » Et elle a dit, « Respectes-tu le programme ?» J'ai dit, « Tout à fait, environ 10 ou 11 heures chaque soir. » Je lui ai dit, « Je vais me reposer un peu quand j'arriverai en Arizona cette fois-ci, pour cette petite série de réunions. Je visiterai ces églises, ces frères. Je ne vais pas punir ces gens. Je vais simplement me rendre là-bas et je vais laisser le service de chant se terminer, les moments de jubilation. Je vais me limiter mes notes à environ 15-20 minutes, dire « Amen » et rentrer chez moi. » Elle a dit, « Respectes-tu le programme ?» J'ai dit, « Oui, chérie, je le respecte. Le programme habituel, 3 heures tout au plus. » De très braves gens, très patients. Eh bien, maintenant, courbons la tête un petit instant, alors que nous nous approchons de lui. Bon, je suis sûr que dans un si bel auditoire de gens qui croient, et surtout, je vois 2 brancards ici, les malades et ceux qui ont des besoins. Je sais qu'ils ont des requêtes spéciales. Il y a sans doute beaucoup d'autres gens qui ont ces requêtes. Si oui, levez simplement la main et faites-les connaître en levant la main. Et maintenant, dans la prière, je vais aller prier pour ceux qui sont sur ces brancards pendant que nous sommes ici, pour être sûr d'y arriver. Si quelque chose se produit, ils ont été assez fidèles pour être amenés ici. Je veux que vous priez tous avec moi. Notre Père Céleste, nous rejetons maintenant toute autre pensée. Nous purifions nos pensées et nous venons de ta présence pour la purification de notre âme. Et nous plaçons devant nous le sang du Seigneur Jésus. Nous confessons que nous ne sommes dignes d'aucune bénédiction que tu voudras bien nous donner. Mais c'est parce qu'il est mort afin que nous obtenions ces bénédictions. Et qu'il nous ait dit de nous approcher du trône avec assurance, que nous avons accès à ces bénédictions par la grâce de notre Seigneur Jésus, qui est venu sur la terre, Emmanuel, et qui a pris la place du pécheur. Il est devenu nous, oh, pour que nous devenions lui. Quel échange, Seigneur! Nous avions une vie de péché et vouée à l'enfer, et de savoir que quelqu'un est venu prendre cette vie sur lui et a fait la purification de nos péchés par le sang versé de sa propre vie. C'est au-delà de ce que nos cœurs pourraient même penser, Seigneur. Ensuite, en plus de tout cela, il a pourvu d'un moyen d'ôter notre iniquité et de nous guérir par ses meurtrissures. Nous sommes tellement reconnaissants qu'il est promis qu'il nous garderait en bonne santé alors que nous le servions. Et maintenant, ce soir, Père, il y a beaucoup de requêtes qui ont été avec leurs mains levées. Nous savons que tu vas considérer chacune d'elles, sachant ce qu'il y a derrière chaque main, dans chaque cœur. Et je te demande, Seigneur, de te souvenir de la parole ce soir, alors que nous la lirons et que nous méditerons là-dessus comme une petite leçon d'école du dimanche, pour que nous repartions d'ici ce soir en ayant cela dans nos cœurs, que nous nous sentions plus près de toi en sortant, que nous l'étions en entrant. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour que cela apporte un réveil partout dans le pays. Ne sachant pas à quel moment cela commencera, mais nous nous attendons à cela avec impatience, Seigneur. Nous faisons tout ce qui est humainement possible pour apporter un réveil qui amène les hommes et les femmes, les garçons et les filles à une connaissance du salut de Christ. Nous voulons te remercier pour cette Église, pour son brave pasteur et sa famille, et pour tous les diacres, les administrateurs, et pour tout ce qu'elle représente. Nous te remercions pour ceux qui sont vaillants et fidèles. Et Seigneur, nous prions pour que les bénédictions de Dieu reposent sur eux. Bénis tous les efforts. Que ceci soit un lieu, Seigneur, où toute cette vallée pourra venir et trouver du repos. Accorde-le, Père. Que les prières du pasteur pour les malades soient exaucées. Que ses prières pour le salut soient exaucées. Pour tout ce qui se rapporte à l'Évangile, que tes bénédictions soient sur lui, et que cette Église ne manque d'aucun don spirituel, qu'elle soit un lieu, une Église exemplaire pour toute la population locale. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, Père, ils sont étendus sur les brancards ici ce soir, ceux qui ne peuvent pas s'asseoir et profiter de la réunion, ceux qui n'ont pas ce privilège, et on est arrivé à les placer ici quelque part ce soir. Ô Dieu, aie pitié. Je me dis, et si c'était ma femme, ou mon frère, ou un parent, quelqu'un que je connaissais très bien, ils le sont pour quelqu'un. Et je prie, Père, que la grâce de Dieu, avec sa puissance, descende vers eux ce soir, qu'elle leur apporte la délivrance divine et qu'elle les délivre de ces brancards. Que ces gens ne soient plus jamais sur ces brancards après cette réunion ce soir. Que lorsqu'ils rentreront, qu'ils repartent sans ces brancards. Que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rende la vie à leur corps pour qu'ils recouvrent la santé et la force. Accorde-le, notre Père. En effet, nous savons que tu as promis de le faire. C'est pourquoi il est écrit dans les Écritures, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains malades, les malades seront guéris. » Maintenant, Père, il n'y a peut-être personne qui est assez près pour les toucher, alors que d'autres sont assez près les uns des autres pour le faire. Je vais donc descendre en commémoration de ce commandement. Et, ô Dieu, je vais m'attendre à recevoir une lettre de leur part, disant que cela s'est accompli, car j'y vais au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crois.
Oh
Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Étant donné que les deux femmes avaient des tumeurs, sur l'une d'elles, il y avait un cancer. Et je vais peut-être donner rapidement ce petit témoignage, même s'il faut que je raccourcisse mon discours. Juste avant de quitter la maison, le dernier cas que j'ai eu avant de quitter, c'était un cas exceptionnel. Il y avait une dame, elle s'appelle Dyer. C'était son nom. J'ai oublié comment elle s'appelle maintenant. Il s'agit du docteur Dyer de Louisville, un certain James, docteur James Dyer, un spécialiste des tumeurs et tout, à Louisville. Sa fille jouait du piano à l'église de la Porte Ouverte, où le docteur Cowbell est pasteur, une ancienne synagogue juive, oh, gigantesque. Et cet homme faisait lui-même partie de l'Église du Christ, l'Église dénominationnelle du Christ. Et il s'est converti en croyant l'Évangile du plein Évangile, un homme très bien. Et elle a joué dans la série de réunions que j'ai tenues à Louisville, au Memorial Auditorium. Et elle a été stupéfaite de voir ce qui s'était passé. Et elle a essayé d'en parler à son père. Il a dit, « Ce n'est que de la psychologie. Ces gens sont tout aussi malades qu'auparavant. » Et donc, il n'a pas voulu y croire. Finalement, elle s'est éloignée de l'Église. Elle a épousé un jeune homme du séminaire baptiste. Et il a fini par abandonner sa croyance. Il avait reçu une formation pour devenir prédicateur. C'est comme cela que procèdent les baptistes. Alors il a abandonné. Il ne voulait pas prêcher. Et ils ont déménagé pour se rapprocher de sa famille à lui, à Rockford, dans l'Illinois. Finalement, elle, Jeanne, a commencé à avoir un problème gynécologique. Elle est allée se faire examiner chez son père. Elle est revenue à Louisville pour se faire examiner. Et à ce moment-là, ils ont trouvé ce qu'on appelle la tumeur chocolat. c'est dans les glandes femelles. Pendant que son père la retirait, lors d'une grosse opération, il a dû répondre une partie de cette tumeur en elle. Et finalement, ils lui ont fait des rayons X en profondeur et de la thérapie. Et donc, quand elle est rentrée chez elle, elle a continué à avoir des problèmes. Environ un an plus tard, ils l'ont ramenée pour un autre examen et ils lui ont fait une hystérectomie totale. Et pendant que son père l'opérait, avec le docteur Humes, qui est l'un des plus grands médecins du Sud, le cancer s'était déjà propagé. Il avait enveloppé le côlon. Alors, ils l'ont laissé là pendant un moment. Ensuite, il a de nouveau essayé de traiter par les rayons X. Ils ont constaté que ça ne lui faisait aucun bien. Alors, ils l'ont simplement ramené à l'hôpital ils ne pouvaient plus lui donner de laxatif pour aller à la selle. Alors, ils ont essayé de lui donner un lavement. Cependant, l'eau n'entrait plus dans les intestins. Alors, son mari était en quelque sorte l'un de mes critiques. Et donc, finalement, un jour, il s'est rendu là. Il a pris la brochure et il s'est mis à la lire. Et mon fils, ici présent, et frère Sothman, il est l'un des administrateurs. Il est ici quelque part. Et il était resté là, devant la porte de l'église, pendant environ 2 ou 3 jours, jusqu'à ce que j'étais parti pour une série de réunions. Quand je suis revenu, je suis allé la voir. Et il a dit, elle ne sait pas qu'elle a un cancer. Il a dit, allez simplement lui parler et prier avec elle. Alors, quand je l'ai vue, elle a dit, Frère Branham, elle a dit, mon mari va accepter la guérison divine, a-t-elle dit, parce que je n'arrivais pas à lui faire regarder une des brochures. Maintenant, il me lit des pages et des pages, chaque jour, l'une des brochures. Et j'ai dit, je comprends ça, Jeanne. Et j'ai dit, maintenant, Jeanne, discutons et voyons ce que le Seigneur dira. Il n'y avait personne dans la chambre, l'infirmière s'était retirée. Alors nous avons discuté un peu, et au bout d'un moment, une vision est apparue. Elle a environ 40 ans, elle n'a pas encore de cheveux gris, mais là, elle était beaucoup plus âgée, avec des cheveux gris. J'ai dit, Jeanne, tu as assisté aux réunions. Oui, frère Branham. J'ai dit, ils t'ont caché ça, et ils m'ont demandé de ne pas te le dire. Mais tu as un cancer. Et j'ai dit, ton père ou ton mari a dit, ne dites rien à ce sujet, mais... Tu as un cancer, Jeanne. Mais maintenant, je veux te le dire, parce que tu as assisté aux réunions. Jamais une vision n'a failli. Maintenant, je vais te le dire, Jeanne. C'est ainsi dit le Seigneur. Vois-tu? Voyez? Or, vous devez vraiment être certain de cela. Voyez que c'est le Seigneur, non pas une impression. Vous voyez ça. Voyez? Ensuite, j'ai dit... Tu vivras. Elle a dit, frère Branham, je m'en doutais depuis le début. Et elle a dit, j'ai grandi dans un foyer où mon père était médecin. Elle a dit, je m'en doutais. Elle a dit, je me le disais depuis le début, que c'était exactement ça. Nous avons prié. Le lendemain, 2 jours plus tard, ils allaient l'amener à l'étage pour faire une colostomie. C'est-à-dire, vous savez, ils coupent l'intestin et ils mettent un sac sur le côté. Et ensuite, le patient, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que le cancer finisse par le tuer, l'intestin se vide dans un sac. Et au moment même où il l'avait préparé, elle était toute prête, et il l'avait préparé à être placée sur la table d'opération. Elle s'est sentie vraiment bizarre. Et elle a demandé à l'infirmière de venir l'aider, à aller aux toilettes. Et à ce moment-là, elle a eu une élimination complète et normale. Et son mari pouvait à peine en revenir. Et le deuxième jour, ils ne l'ont pas amené à l'étage. Le deuxième jour, normalement, juste après le petit déjeuner, elle a eu une autre élimination complète. Alors, son médecin a téléphoné. Entre 2 sanglots, en pleurs, il a dit, « Je n'arrive pas à comprendre. Nous ne réussissons même pas à trouver un seul symptôme de tout ça. C'est disparu. » Alors, là... Mes précieuses sœurs, je n'ai aucune raison de me tenir ici en tant que serviteur de Christ et dire quelque chose de faux, parce que je serai jugé ce jour-là et rejeté comme un hypocrite. Maintenant, avec la parole de Dieu ouverte, ma prière pour Jeanne n'était pas plus grande ni plus sincère que celle que j'ai faite pour vous. Voyez, nous avons bien enfoncé ce petit poteau, sachant que la prière de la foi avait été prononcée. Ça règle la question. C'est la parole de Dieu qui le dit. Voyez-vous, la prière de la foi sauvera le malade. Or, le même Dieu qui a guéri la fille du docteur Dyer, Jeanne, je ne sais pas comment elle s'appelle aujourd'hui, Mais cet homme a certainement embrassé le plein évangile. Lors de la dernière prédication à l'église, il était là, assis là-bas, il acceptait tout. Il a pris la communion avec nous et tout le reste. Un étudiant baptiste était venu au Seigneur pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Or, ça montre tout simplement que Dieu reste Dieu. Et le médecin, son père, un homme très aimable. Seulement, il n'avait jamais rien vu de semblable arriver. Or, Dieu a un temps pour toutes choses. Du moment que vous croyez, vous êtes toutes les deux croyantes. Alors, parfois, ces choses arrivent pour le bien. Vous savez, la Bible dit, elles concourent au bien. Or, vous souvenez-vous de Job, de toutes ses épreuves? Or, ce n'était pas que Dieu châtiait Job, mais c'était Dieu qui rendait témoignage de son serviteur. Alors, tout a concouru au bien, vous voyez. Et puis, le livre de Job a été écrit pour toutes les générations, pour servir de témoignage. Donc, Dieu le fait concourir au bien. Souvenez-vous simplement que j'ai prié de tout mon cœur, la prière de la foi. Croyez-y. Et là, voilà, ce sera réglé. Ce sera le cas. Observez simplement les résultats. Maintenant, pour aborder tout de suite le message, beaucoup sont debout. Un petit message pour ce soir. Et souvenez-vous donc de ceci, que là-bas, au Ramada, il y aura de très bons orateurs à cette convention des hommes d'affaires, au Ramada cette fois-ci. Alors vous, là-bas, au Ramada, alors tâchez de venir assister à cette série de réunions. Frère Oral Roberts sera là pour la soirée du banquet. Et là, je suis un peu comme une petite partie de Tucson. Je vais soutenir Tucson. Nous en avons aussi une, là-bas, lundi soir prochain. Alors, si vous vous trouvez dans les environs, eh bien, venez aussi là-bas. Et vous pourrez me supporter un peu, parce que je suis censé prêcher à celle-là. Alors, venez, si vous le pouvez, mardi prochain, lundi soir prochain, au motel Ramada, à l'auberge Ramada à Tucson. Et bien sûr, nous savons tous que Phoenix n'est que la banlieue de Tucson. Nous le savons tous, vous voyez. Alors, venez voir comment les gens de la montagne vivent. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans Zacharie 14, au chapitre 6 et 7. J'aimerais lire comme en tirer un petit contexte pour le sujet que j'aimerais aborder.
And it shall come to pass in that day that the light shall not be.
Et il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aura pas de lumière. Les luminaires seront obscurcis. Mais ce sera un jour connu de l'Éternel, pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière.
Now I wish to draw from this the.
Maintenant, j'aimerais tirer de ceci le messager du soir, comme quand, pour sujet, le messager du soir. Bien sûr, nous pouvons avoir des messagers tout le long du jour, et il y a eu des messagers tout au long de ce jour dont il a parlé. Mais un message du soir viendra. Nous voulons considérer cela ce soir, et un peu comme une leçon de l'école du dimanche, parler un peu là-dessus. Bon, nous savons tous ce dont Zacharie parlait ici, parce qu'il a dit, il y aura un jour qui, pour le Seigneur, ne sera ni jour ni nuit, mais le soir, il y aura de la lumière. Or, si nous savons qu'il ne fera ni jour ni nuit, ce sera donc un jour assez sombre, un jour assez brumeux. Et nous savons tous que la civilisation a voyagé de l'Est à l'Ouest. La civilisation la plus ancienne que nous avons, c'est la Chine. Et la civilisation a voyagé de l'Est à l'Ouest parce qu'elle a suivi le Soleil. Et maintenant, nous voilà arrivés jusqu'à la côte Ouest. Si nous allons plus loin, nous serons de nouveau à l'Est, voyez-vous. Nous sommes donc au bout du chemin. Nous croyons, en tant que l'Église, que l'Évangile est presque achevé. Nous croyons que tout au long des âges, dans ces derniers jours, au cours des dernières centaines d'années, les grands messagers ont combattu pour ces grandes choses. La justification par la foi, Luther, la sanctification par Wesley, le baptême du Saint-Esprit par les pentecôtistes. Nous croyons que ces éléments s'assemblent pour former le corps complet, comme le naturel et le spirituel. Quand un bébé naît normalement, quelle est la première chose? La première chose qui vient, c'est l'eau. La chose suivante, c'est le sang. Et la chose suivante, c'est la vie. 1 Jean 5,7 dit, « Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Ils sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. » Voyez, ils sont un. Mais il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'Esprit. Et ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Voyez, or, vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit, c'est la présence de la puissance du Christ qui habite à l'intérieur, dans l'Esprit. Or, nous voyons que les choses naturelles sont des types des choses spirituelles. Ainsi donc, l'Église a atteint sa pleine maturité maintenant. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Nous venons juste de terminer l'étude des 7 âges de l'Église chez nous. Et cela a été présenté sous forme de très beaux types. Et au fait, quelqu'un a-t-il déjà écouté ces bandes sur les âges de l'Église? La dernière fois, j'ai dessiné ces âges-là sur le tableau noir. Le Père Céleste sait que c'est vrai. Quand j'ai terminé ça, au mieux de ma connaissance, sous l'inspiration que Dieu m'avait donnée, cet ange du Seigneur que vous voyez sur la photo, beaucoup ont vu cette photo, n'est-ce pas? Cette lumière, elle est descendue là, dans la salle, devant environ 300 ou 400 personnes. Elle est allée là, le long du mur, comme une lumière, comme ça, et a elle-même dessiné ces âges de l'Église. Nous étions tous là à la regarder. On la regardait dessiner le premier âge de l'Église, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Eh bien, il y a des gens assis ici qui ont été témoins de cela. Levez la main si c'est le cas. La Bible dit sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Tous ceux qui étaient assis là criaient et tout. J'ai dit, voilà, maintenant, vous vouliez la voir, tout le monde peut la regarder. À 11h du matin, elle était suspendue là, sur le mur, et elle a dessiné ses âges de l'Église. Et quel âge, avec quelle mesure de l'Esprit? Ensuite, les ténèbres, pour montrer que l'Esprit avait été étouffé. Il a traversé l'âge des ténèbres, et elle est descendue de nouveau, exactement comme j'avais dessiné cela. Et nous avons ça, nous en avons des photos et tout, des dessins, accroché au mur. Et voilà, c'était exactement ça. L'Esprit du Seigneur a dû être satisfait que cela s'achève, parce qu'il est revenu confirmer que c'était vrai. Et nous vivons dans l'âge de l'Église de Laodicée, l'âge de l'Église riche, qui pense qu'elle n'a besoin de rien, et elle ne sait pas qu'elle est nue, misérable, aveugle. Et elle ne le sait pas, voyez-vous. Donc, tout cela a été présenté en type. Or, le même soleil qui brille, qui se lève à l'est, est le même soleil qui se couche à l'ouest. Alors, arrêtons-nous juste un instant pour placer ce message dans son contexte. Nous savons que le soleil, il s'agit du S-O-L-E-I-L, le système solaire. Mais le F-I-L-S de Dieu est descendu dans l'éclat de Dieu et la lumière de Dieu en Orient. Et 2000 ans se sont écoulés. Pour le Seigneur, il a dit, ce serait un temps qui ne serait ni jour ni nuit, un jour assez sombre, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Or, si vous remarquez, le Saint-Esprit est d'abord descendu sur les gens de l'Orient. Ensuite, on a eu un moment où les gens n'ont fait qu'adhérer à l'Église. Il y avait de petits points à aborder et de petites causes pour lesquelles combattre. Mais alors, au temps du soir, dans l'hémisphère occidental, il y aura de la lumière. Et nous sommes maintenant à ce moment-là. La civilisation est arrivée en provenance de l'Est, comme une grande vague, amassant de plus en plus de péchés en avançant. Et elle a frappé la côte ouest, comme un mur du son, et elle a reculé. Et l'endroit le plus corrompu que je connaisse se trouve sur la côte ouest. Tout ce qu'on peut imaginer, ils l'ont. Le péché, la corruption, le divorce, le mariage, Hollywood, le trou même de l'enfer. C'est tout à fait vrai. Je crois en la sainteté authentique de la Bible et je ne crois pas en cette corruption et cette pourriture qui fournissent un exemple à notre peuple, qu'on appelle Hollywood. J'ai toujours été contre ça et je pense qu'un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui serait contre ça parce que l'Esprit de Dieu lui témoignerait que c'est mal. Or, je pense que c'est l'un des... Autrefois, on allait à Paris pour se procurer des modèles de nudité pour déshabiller nos femmes. Maintenant, c'est Paris qui vient ici pour se procurer les nôtres. Voyez, c'est Hollywood qui tient le premier rang mondial. Et la mode de nudité que nous avons aujourd'hui dépasse celle de la France. Pensez-y un peu. Ce lieu d'ivresse, de bagarre, d'immoralité. Et pourtant, Hollywood dépasse tout cela. Et tout, à la télévision, tout ce qu'on y diffuse, c'est des émissions non censurées, des histoires sales et de la corruption, de la pourriture. Elles se sont glissées dans tout. Et les gens, le diable, on ne nous permettait pas d'envoyer nos enfants au cinéma il y a des années, nous les pentecôtistes du début. Mais maintenant, le diable nous a roulés et il l'a placé juste là, dans la maison. Voyez-vous, alors il a réussi à introduire le cinéma chez nous. Or, et c'est vraiment une chose affreuse de constater que le monde se retrouve dans cette corruption parce que toute la racaille, vous voyez, est entrée comme une vague. Elle est venue avec la civilisation. Mais depuis le début, un de ces jours, si le Seigneur le veut, dans quelques jours, je vais prêcher sur le compte à rebours. Vous savez, j'espère que vous êtes en orbite. Alors on verra là ce qui se passe. Dieu a aussi pu faire quelque chose avec son Église, vous voyez, pendant tout le temps que ces choses se passent. Et maintenant, nous sommes au temps de la fin. Merci Seigneur. Chaque âge a eu son message et son messager. Dieu a veillé à cela. Même dans les âges de l'Église, nous avons vu que chacun avait un messager et que chacun d'eux a vécu son âge. Un autre venait et celui-là partait. Et un autre venait, ainsi de suite, jusqu'au septième âge de l'Église. Chaque étoile, chaque ange de l'Église, chaque messager. Et nous avons vu qu'au dernier âge de l'Église, là, dans Apocalypse 10, il doit y avoir un son de trompette. Et sept voix se sont faites entendre. Ah, il n'a pas été permis de les écrire. Mais cela a été scellé au dos du livre. Les sept sceaux étaient au dos du livre. Après que le livre est écrit, il est scellé de sept sceaux, là. Or, personne ne sait ce qu'ils sont. Mais il est dit au jour où le septième ange proclamerait son message. Il s'agit d'un ange terrestre, là. En effet, cet ange est descendu du ciel, et celui-ci était sur la terre. Un ange, c'est un messager pour l'âge. Ensuite, nous remarquons qu'il avait un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, qu'il a levé sa main et qu'il a juré par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Quand ces sept voix se sont fait entendre, quand sept tonnerres ont fait entendre leur voix, et il lui a dit, « N'écris pas, mais scelle-le. » Et nous remarquons que c'était au dos du livre. Mais quand le septième ange aura terminé son message, qui avait été prophétisé pour son jour, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. Tout le monde sait que la Bible dit. Le mystère de Dieu, ce que Dieu est, qui Dieu est, et tout ce qui se rapporte au baptême et tout cela serait réglé en ce jour-là. Chaque messager a eu son message, le message et le messager de l'âge. Et il est très remarquable que chaque messager, nous avons même vu dans les âges de l'Église, et ce soir nous allons retourner dans l'Ancien Testament, pour voir que c'est la même chose, que Dieu envoie le messager d'un âge donné à la fin de la période, toujours à la fin, jamais au début, à la fin. Donc, quand l'âge de Luther était à son déclin, Wesley est arrivé, et quand la sanctification de Wesley était à son déclin, l'âge pentecôtiste est arrivé. Voyez, c'est toujours le messager qui ouvre le nouveau message à la fin du précédent. Cela s'est passé dans chaque âge. Nous savons que c'est la vérité. Cela s'est répété chaque fois, d'un bout à l'autre de la Bible. Nous voyons ça dans les Écritures sacrées, d'un bout à l'autre, que juste vers la fin de l'âge précédent arrive le nouveau. Cet âge disparaît et un nouvel âge arrive. Dieu envoie le messager. Et comme toujours, toujours, chaque fois qu'un messager arrive, c'est toujours un appel à revenir à la parole. Ça ne faillit jamais. Souvenez-vous, ceci, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Rien ne peut y être ajouté, ni en être retranché. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et voici le seul moyen pour nous d'en être sûr. Si quelque chose de contraire à cette révélation se lève parmi nous, alors c'est faux. Voyez, revenir à toute allure à la parole. Et il y a toujours un appel à revenir. Et chaque fois dans l'Écriture, chaque fois, Dieu utilise un prophète pour rappeler cet âge. Toujours. Sans ex. Non, pas une seule fois, cela n'a failli. Il envoie toujours un prophète. Alors, pourquoi le fait-il? C'est parce que la Bible dit, c'est au prophète que la parole de Dieu vient, le révélateur de la parole. Or, j'espère que je ne suis pas mal compris. Voyez, je ne veux pas être mal compris, mais je veux être honnête et fidèle à l'appel. Voilà ce que nous voulons être. Donc, Dieu utilise toujours un prophète, un homme. Si vous utilisez un groupe d'hommes, vous avez différentes idées. Voyez-vous, chaque homme, deux hommes, il n'a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il en retire un pour que l'autre prenne sa place, pour un autre jour, un autre message. Il n'en a jamais deux, il en a un seul à la fois. Et le Dieu infini ne change jamais son programme. S'il commence avec quelque chose, il doit toujours s'en tenir à ça. Voilà pourquoi nous pouvons avoir confiance en ce qu'il dit. Il ne peut pas changer. S'il a sauvé un homme en fonction de sa foi en Dieu, ça devra être pareil pour l'homme suivant qu'il sauvera. Quand Dieu a pourvu d'un moyen pour communier avec sa créature, Adam a essayé de se forger un moyen et il a cousu des feuilles de figuier pour lui et sa femme, pour en faire des ceintures. Dieu a rejeté ça. C'est Dieu qui a décidé du programme ou de la base sur laquelle il rencontrerait l'homme et communierait avec lui. C'était le sang versé. Et il n'a jamais changé ça. Et là, en tant que méthodistes et baptistes, nous pouvons nous serrer la main. Mais sur la base de ce qu'il y a entre les méthodistes et les baptistes, nous n'avons rien en commun. Moi, j'appuie les baptistes, et vous, vous appuyez les méthodistes, ou vice-versa. Mais il y a une seule base où tous les croyants peuvent se rencontrer. C'est sous le sang versé. C'est là que nous nous rencontrons et que nous rejetons toutes ces choses. Donc, nous ne pouvons pas tous entrer dans une seule organisation. Nous ne pouvons pas faire ça. Ces petites organisations, je pense que Dieu était là-dedans, dans tout ça. Mais les gens, parce que nous sommes différents, chaque homme voit les choses de façon différente. Chaque personne voit les choses de façon différente. Il n'y a pas deux pensées qui soient exactement les mêmes. Il n'y a pas deux personnes qui soient parfaitement pareilles, dit-on. Pas deux nez, pas deux empreintes de pouces. Voyez, nous sommes faits différemment. Ainsi donc, nous devrions avoir différents groupes. Mais Dieu travaille toujours avec un individu. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes méthodiste. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes baptiste. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes pentecôtiste. Il vous sauve parce qu'il a traité personnellement avec vous. Et vous êtes sauvé sur cette base-là. Vous avez accepté cela. Et donc, pour que Dieu traite avec vous, il ne traite pas avec vous en tant que son Église. Il traite avec vous comme un individu. C'est pourquoi, quand Dieu envoyait ses prophètes, ses messagers du Testament, il parlait à un seul homme. C'est cet homme qui devait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout pour apporter le même message. Mais il fallait qu'il y ait un seul quartier général. Dieu l'a toujours eu. Je suis reconnaissant qu'il l'ait ce soir. C'est le Saint-Esprit, bien sûr. Nous le savons tous. Donc, non pas un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. Voilà le messager de Dieu pour cette heure. Or, en effet, c'est au prophète que la parole vient toujours. S'il est un vrai prophète de la parole, Dieu confirme sa parole par ce prophète. Or, il y a eu beaucoup de faux prophètes. On en a eu tout au long des âges. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, nous les voyons se lever et parler au nom de l'Éternel. Et ce n'était pas vrai. Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Il ne confirme rien d'autre que sa propre parole. De toute façon, il ne gérerait pas ses affaires de cette façon-là. Voyez? Souvenez-vous simplement, Dieu ne confirme que sa parole. Et seul un vrai prophète est la seule façon pour vous de savoir s'il est vrai ou pas, c'est par la parole. Voilà comment le juger. Maintenant, si vous remarquez, comme à l'époque de Michée, il y avait 400 prophètes hébreux devant Achab et Josaphat. Et ils ont dit, « Ainsi dit le Seigneur, monte, tu auras du succès. » Sur le plan fondamental, ils avaient raison. Ensuite, on appelait Michée à comparaître, celui qu'ils haïssaient tous. Or, il semblait 400 Je ne parle pas des prophètes des Baals. Prophètes hébreux se sont levés d'un commun accord. Et ils ont dit, « Monte à Ramoth en Galade, l'Éternel te bénira et tu auras du succès. » Et ces hommes n'étaient pas des hypocrites. Ils étaient absolument inspirés. Mais alors pourquoi ce petit homme du nom de Michée, fils de Jimla, est-il venu prophétiser le contraire de ce qu'eux avaient dit? Eh bien, il fallait du cran. Il fallait être convaincu. Voyez? Mais comment savait-il qu'il avait raison? Si vous aviez été là, comment l'auriez-vous su? La seule façon pour vous de le savoir, c'est de prendre ce que cet homme dit et comparer cela avec la parole. Voyez, là, Michée était parfaitement conforme à la parole, parce qu'Élie, ce grand prophète qui avait la parole de l'Éternel, avait maudit Achab et Jézabel et tout. Voyez, comment Dieu pouvait-il changer d'avis et bénir ceux qui avaient été maudits? Voyez, donc, ça ne pouvait tout simplement pas marcher. Or, nous avons vu que Dieu confirme sa parole. La parole du prophète, s'il est un prophète, alors c'est, il parle conformément à la parole. La Bible dit dans un passage, s'ils ne parlent pas selon la loi et les prophètes, il n'y a pas de lumière en eux. Alors ce messager appelle à sortir ceux qui sont appelés à sortir. C'est lui qui a raison par la parole de Dieu. Ça prouve qu'il a raison. Remarquez, nous allons maintenant faire venir quelques personnages et écoutez. Noé était le témoin de Dieu pour le temps de la fin antédiluvienne. Maintenant, regardez combien son message était à l'opposé du monde antédiluvien tout entier. Eh bien, on prenait cet homme pour un fou. Eh bien, et pourtant, il avait la parole exacte de l'Éternel. Or, Dieu avait dit qu'il ne pouvait pas tolérer le péché. Donc, quand les gens se sont mis à pécher, alors Dieu est descendu. Et Noé a prêché le message du temps de la fin. C'était quand? Juste avant la fin des temps. Ce messager est apparu. Dieu a envoyé ce prophète avec le message pour le temps de la fin. Et on l'a raillé, ridiculisé. On s'est moqué de lui. Et seule sa propre famille, il a sauvé. C'est vrai. Personne ne voulait le croire. Mais il avait le message du temps de la fin. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru ont été condamnés. Et ceux qui ont cru au message ont été sauvés. Dieu leur a donné la vie et ils ont été sauvés. Et ceux qui n'y ont pas cru ont été perdus. Or, je montre quelque chose en type. Remarquez Dieu comme il a fait ça à trois reprises. Et trois, c'est le nombre parfait de Dieu. Dieu est parfait en trois, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et la justification, la sanctification et baptême du Saint-Esprit. Il est rendu parfait, parce que trois, c'est sa perfection. Cinq, c'est le nombre de la grâce. Sept, c'est le nombre de l'adoration, c'est 12. 40, c'est le nombre de la persécution. Et 50, c'est le jubilé, l'adoration. Pentecôte signifie 50. Et Moïse a été tenté pendant 40 jours. Christ a été tenté pendant 40 jours. Vous voyez? Et tout cela, ce sont des types. Maintenant, Dieu est parfait en trois. Il y a trois destructions. L'une d'elles, c'est quand Noé est entré dans l'arche. La deuxième fois, Lot est sorti de Sodome. Observez. Jésus les a cités. Ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Observez, l'un est entré, l'autre est sorti et le troisième monte. Oui, voyez? Oui, entre, sort, monte. Alors voilà l'ordre du Seigneur. Voyez-vous, Jésus a fait référence à ces deux prophètes. Ce qui arriva du temps de Noé, voyez-vous, et ce qui arriva du temps de Lot, c'est Abraham qui était le prophète, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Voyez-vous, il les a cités. Or, Moïse, un autre prophète, à la fin de l'âge égyptien, nous voyons que quand Dieu allait délivrer son peuple, les Égyptiens les avaient tellement persécutés avec des chefs de corvée au-dessus d'eux, plutôt des maîtres qui dominent sur eux. Et à l'heure, juste avant leur destruction, Dieu, comme toujours, il a envoyé un prophète qui avait la parole de l'Éternel. Souvenez-vous, ce prophète identifiait exactement ce que Dieu, des centaines d'années auparavant, 400 et quelques années auparavant, avait promis à Abraham que sa postérité séjournerait dans un pays étranger, mais qu'il la ferait sortir par une main puissante. Vous savez, au buisson ardent, quand Moïse a rencontré Dieu, il lui a dit, « J'ai entendu les gémissements de mon peuple, j'ai vu leurs souffrances. » Et je me suis souvenu de mon alliance. Il se souvient de sa parole. Souvenez-vous, il se souvient encore de sa parole. Voyez, il ne faillit pas. Il doit faire la même chose chaque fois. La raison pour laquelle je dis ces choses, c'est pour que nous puissions garder cela à l'esprit et y réfléchir. Même vous qui avez été malade, vous avez remarqué que j'ai dit « avez été malade ». Alors, remarquez maintenant, chacun de vous, vous devez vous souvenir de ceci, que Dieu ne peut pas changer. Il est le Dieu immuable. Les époques changent, les gens changent. Dieu est infini, il ne peut pas changer. Ça, il doit demeurer le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il doit toujours le demeurer. Et si nous croyons que ceci est la parole de Dieu, nous pouvons mettre notre confiance en tout ce qu'il a dit. Voyez, or là, vous voyez comment son message vient, comment il envoie son message. Il ne peut pas changer ça. C'est ce qu'il a toujours fait. Il doit toujours demeurer le même. C'est comme ça qu'il le fera toujours. Alors souvenez-vous, quand est-ce qu'il fait ça? Juste avant les destructions, juste à la fin de l'âge. C'est là qu'il envoie son message pour appeler son peuple à sortir. Ils embrouillent toujours les gens, et les voilà qui sont venus. Eh bien, au jour de Moïse, les croyants ont été sauvés, les incrédules ont péri. Celui qui croyait au message de Moïse que Dieu avait envoyé, or, il ne l'aurait pas fait, à moins que Moïse ait été confirmé par Dieu, prouvant que la parole de Dieu était avec lui. C'est ce qui faisait de lui un prophète. Il sortait là et il disait, « Demain, vers cette heure-ci, vous verrez telle et telle chose arriver. » Le lendemain, ça arrivait. C'était tout. Tout vrai prophète de Dieu qui parle au nom du Seigneur fera cela. Et il arrivera que telle et telle chose aura lieu. Je vais aller voir Pharaon, mais il s'endurcira. Son cœur sera endurci. Il dira qu'il va nous laisser partir, mais il ne le fera pas. Et ça arrivait. Voyez? Pourquoi? Alors les gens su que cet homme était envoyé de Dieu. Ensuite, ils ont commencé à constater que Dieu l'avait béni et ils l'ont honoré. Et à ce moment-là, de grandes choses se sont produites. Et les gens qui l'avaient raillé, qui s'étaient moqués de lui et qui n'avaient pas accepté son message, ils ont péri avec les autres incrédules. Mais les croyants sont sortis et ils sont entrés dans la terre promise. Ils se sont placés sous le message loin du messager. C'était un message de délivrance. Dieu avait promis qu'il amènerait son peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Et c'est arrivé parce que Dieu l'avait déjà dit. Et Moïse est venu et il a été confirmé comme messager de ce jour-là. Or, cela nous clarifie bien la chose. Très bien. Alors nous voyons que Moïse a été correctement identifié. Ensuite, au changement d'âge, le temps était venu pour, entre la loi et la grâce, il devait venir un temps où le Messie, dont on avait parlé, devait venir. Nous voyons qu'il y a eu un temps où les gens avaient déformé la loi. Ils l'avaient entièrement placée sous un grand groupe de quelque chose. Et ils avaient toutes sortes de traditions d'hommes qu'ils y avaient injectées. Au changement du temps, Jésus est venu. Un autre prophète, un prophète Dieu. Bon, vous dites, il n'était pas un prophète. La Bible dit qu'il en était un. L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi. Il était le prophète Dieu au changement du temps entre la loi et la grâce, dont il avait parlé pendant toutes ces années. Après qu'il avait donné la loi à Moïse, alors au changement du temps, à la période où il avait dit que cela se produirait, alors il est revenu à la grâce. Et il a envoyé un prophète qui prophétise pour ce temps-là. Alors, Alors, les croyants, il les a rassemblés. Les incrédules ont péri en son jour. Tous ceux qui ont cru en lui ont été sauvés. Tous ceux qui n'ont pas cru son message ont été perdus. C'est exactement ce qui s'est passé au jour de Noé. C'est ce qui s'est passé au jour de Lot. C'est ce qui s'est passé dans les autres jours, au jour de Moïse. C'est ce qui s'est passé au jour de Jésus-Christ. En effet, ils ont méprisé le message et ont péri. Et ceux qui avaient cru le message ont été perdus, ou plutôt, ils ont été sauvés. Bon, alors ensuite vient la dispensation de l'Église. On a vécu à l'époque de Noé, l'époque antédiluvienne. On est entré dans la dispensation de la loi. Ensuite, dans la dispensation de la grâce, l'Église. Et maintenant, la dispensation de l'Église arrive à sa fin. Nous le savons tous. Or, si Dieu a fait telle et telle chose dans cette dispensation-là, dans ces deux autres dispensations, il doit demeurer le même et faire la même chose dans cette dispensation-ci, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Je vais le prouver dans quelques minutes par la parole, qu'il a dit qu'il le ferait. Or, il ne peut pas changer son programme. Il est Dieu. Remarquez ce qu'il a fait dans ces dispensations-là. Nous arrivons maintenant au temps de la fin de la dispensation de l'Église. C'est ce que j'ai lu ce soir. Il y aura de la lumière au temps du soir. Nous avons eu beaucoup de temps sombre, mais il y aura de la lumière. Le même Fils qui est venu changer la dispensation à cette époque-là revient de nouveau. Là, ce sera de la terre à la gloire. Nous monterons dans cela. Une fois, nous sommes entrés. Une autre fois, nous sommes sortis. Et cette fois-ci, nous montons. Voyez, très bien, entrer, sortir, monter. Nous nous approchons du temps de la fin. Non seulement nous nous approchons, nous sommes déjà arrivés. Nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu trouve en ce temps de la fin? En ce temps de la fin, Dieu trouve exactement ce qu'il a trouvé dans les autres temps de la fin. L'incrédulité. Il a toujours été qu'il, quand il vient, il trouve l'incrédulité. Il voit que le programme qu'il avait établi pour les gens, à l'époque de Noé, s'ils avaient vécu selon ses ordonnances, offert des sacrifices, il s'était éloigné de cela. Quand il est venu, il a trouvé que cette chose opérait d'une mauvaise façon. C'est la même chose qu'il a trouvé quand il est venu sur la terre. Il a trouvé que les gens, les pharisiens et tout, suivaient la loi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pas la moindre sincérité dans tout ça. Ils procédaient sans se soucier de quoi que ce soit. Et tant qu'ils avaient adhéré à l'Église, pour eux, c'était tout ce qu'il fallait. Et c'est ce qu'il a trouvé. Et c'est ce qu'il a de nouveau trouvé. Il trouve la même chose. Les gens ne changent pas. Si donc il avait envoyé son programme et que les gens qui n'y ont pas cru en ce temps-là ont péri et que ceux qui y ont cru ont eu la vie sauve, ces deux cas-là, ça doit être la même chose en ce temps-ci. Ça doit être la même chose. Aucune. Ça a toujours été un combat pour le messager de séparer l'ancien du nouveau. Ça a toujours été un combat. Pour le messager qui arrive, de séparer l'ancien du nouveau, bien que le message doive toujours être conforme aux Écritures. En effet, chacun a annoncé d'avance la venue de l'autre. Maintenant, prenons par exemple Jésus. Combien c'était difficile pour lui de venir changer le message de la loi à la grâce. Pourtant, la Bible avait dit que cela arriverait de cette façon-là. Il y aurait un Messie, et le sacrifice perpétuel cessera. Et nous savons que cela avait été prophétisé par les prophètes. C'était une grande chose pour lui de le faire. Mais nous voyons qu'il l'a fait. Et celui, il l'a fait parce que les Écritures l'avaient dit. Et les croyants de ce jour-là, les soi-disant croyants, n'étaient absolument pas d'accord avec lui. Regardez ces pharisiens et ces sadducéens. Ils avaient leur propre tradition. Et personne n'allait les en faire déroger. C'est ce qu'ils croyaient. Leur mère y croyait. Leur père y croyait. Leur grand-père, leur grand-mère y croyait. Et Moïse l'a dit. Mais le même Moïse qui avait donné la loi, c'est le même Moïse qui a dit que cet homme viendrait. Et ils n'ont pas reconnu ça. Parce qu'ils avaient introduit la vraie parole de Dieu dans les traditions et qu'ils en avaient abandonné le principe essentiel. Il fallait qu'il en soit ainsi. Remarquez, chacun annonçait d'avance que l'autre viendrait. Chacun des messagers, après le message, annonçait d'avance que cela arriverait. Alors, mais les gens prennent toujours le message du jour qu'ils ont eu, ils l'organisent. Analysons ça, un peu plus près de nous. Observons Luther. Quand Luther a prêché la justification par la foi, il était le messager, l'ange de cet âge de l'Église. Très bien, de l'âge de l'Église de Sardes. Or, remarquez, quand il a prêché, il a mis les luthériens en ordre. Eh bien, voilà Luther qui est largement propagé. Et quand Wesley est arrivé, l'âge de l'Église de Philadelphie, avec le message de la sanctification, eh bien, c'était difficile pour Luther de voir ça. Ces luthériens n'y croyaient pas. Quand les pèlerins de la sainteté, les méthodistes libres, et ainsi de suite, se sont tous installés à la suite de Wesley sous la sanctification, le message pentecôtiste est arrivé. Eh bien, c'était difficile pour un méthodiste de croire ça. Oui, bien sûr, c'était difficile. Voyez-vous, c'est pourtant l'un parle de l'autre, selon l'Écriture. Enoch avait annoncé les destructions qui allaient venir par son enlèvement. Quand Dieu l'a ramené à la maison, il était un témoin. Abraham leur avait annoncé Moïse, et Moïse avait annoncé le Messie. Voyez-vous, ils ont continué à annoncer les uns les autres. Le Messie a annoncé ce temps-ci. Il a annoncé ce que celui-ci serait. Vous dites, ah, frère Branham, oh oui, il l'a fait. Prenons, j'ai noté beaucoup de passages de l'Écriture ici, et je vais en citer seulement deux ou trois. Prenons Matthieu 24. Maintenant, prenons Matthieu, le chapitre 24, et lisons ce qu'il a dit qui arriverait, qu'une nation s'élèverait contre une nation. Mais souvenez-vous, ensuite, il descend là, et il dit, ce qui arriva du temps de Noé, et ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Il a prédit cela. Il a annoncé d'avance que ces choses-là arriveraient. Il a dit, alors quand tout cela sera arrivé, le temps ne sera pas encore venu, et ainsi de suite. Mais il a dit, apprenez du figuier la parabole. Quand il est jeune et qu'il pousse des branches et tous les autres arbres, alors vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le temps est proche, à la porte. Maintenant, quand vous verrez quoi? Le figuier bourgeonner et tous les autres arbres commencer à bourgeonner. C'était un signe. Et Israël a toujours été le figuier. Joël a même prophétisé à ce sujet, ce qu'a laissé le gazon. Le Hazil l'a dévoré et démoli. Mais Dieu a promis, je restituerai, dit l'Éternel, et il le fera. Mais avant de restituer cela à son état spirituel, il faut que l'Église des nations soit retirée. Il n'en aura pas deux à la fois. Bon, vous ne pouvez pas tordre le sens des Écritures comme ça. Voyez, il n'a jamais eu deux témoins à la fois, des témoins majeurs. Il n'a jamais eu, il n'a pas deux églises à la fois. Remarquez, elle, l'Église des nations doit d'abord être enlevée. Pour les Juifs, ensuite, la fin des 70 semaines de Daniel aura lieu. Le Messie a prophétisé pendant 3 ans et demi. Ensuite, il était retranché, le prince, au milieu de la 70e semaine. Alors, il reste encore 3 semaines et demie. Et nous voyons 2 prophètes d'Apocalypse. Il ne change plus son manteau. D'Apocalypse 11, arrivé et prophétisé aux Juifs. Or, l'Église aura été enlevée en ce temps-là. Et nous voyons Israël, pour la première fois après plusieurs centaines d'années, pratiquement plus de 2000 ans, devenir maintenant une nation. Elle a sa propre armée, sa propre monnaie. Israël est dans la patrie. Elle a sa propre nation, son propre drapeau. Elle est membre des Nations Unies. Elle est une nation. Eh bien, c'est l'un des plus grands signes auxquels nous pourrions penser maintenant. Israël dans sa patrie. Et Jésus a dit, cette génération qui verra Israël retourner dans sa patrie ne passera point que tout cela n'arrive. Voyez-vous, il a parlé de ce jour-ci. Je vais en donner un autre. Dans 2 Timothée 3, il a parlé de l'Église au temps de la fin. Il a dit, « Ils seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Prenez le monde des Églises, partout, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils restent à la maison, ils regardent une émission de télévision avant d'assister à la réunion de prière le mercredi soir. Vous dites, « Ça, ce sont des baptistes, ce sont des pentecôtistes. » Bien sûr, oui monsieur. Oh, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir. On leur met la parole en plein sous le nez. Ils ne la regarderont pas. Ah, aimons le plaisir plus que Dieu. Si vous dites aux femmes qu'elles ne doivent pas se couper les cheveux, elles les coupent quand même. Hein? Aimons le plaisir plus que Dieu. Déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien. Ayons, vous dites, ça, ce sont des athées. Non, non. Ayons l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force qui peut vous délivrer de ce repère, ce système présent de ce monde. Ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Peu importe ce que les autres disent, il s'agit de vous en tant qu'individu devant Dieu. C'est vous qui aurez à rendre compte. Peu importe ce que cette femme-ci fait, ou ce que cette femme-là fait, ou ce que cet homme-ci fait, ou ce que cet homme-là fait, ou ce que ce prédicateur-ci dit, ou ce que ce prédicateur-là dit, il s'agit de vous et Dieu. Ayons l'apparence d'après la tradition, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que nous vivons en ce jour-là? Bien sûr que oui. Regardez encore, dans le dernier âge de l'Église, le Saint-Esprit, Jésus lui-même, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Et Apocalypse, chapitre 3, parle de cet âge de l'Église. Jésus rend témoignage de ce qui aura lieu dans les derniers jours. Il a dit, l'Église deviendra riche. Laodicée, tiède. Sauter un peu par-ci, par-là, quand la musique joue avec excitation. Voyez, c'est vrai. Mais quant au témoignage et à une vie mise en ordre, c'est loin d'être le cas. Je ne voudrais pas vous froisser pour rien au monde. Mais j'ai une vision, il n'y a pas longtemps. J'étais au paradis de Dieu. Je ne peux que vous dire la vérité. Que Dieu nous aide, nous les ministres, être honnête en ce qui concerne ces choses et à dire la vérité. Voyez-vous? Foi, la Bible dit qu'ils seraient comme ça. Alors, ils vont être comme ça. Si cela s'est accompli parfaitement avec Luther, que cela s'est accompli parfaitement avec, dans l'âge de Philadelphie, avec Wesley, elle a dû l'annoncer parfaitement. Elle l'a annoncé et il en sera exactement ainsi dans Laodicée. Riche, n'ayant besoin de rien. Nous pouvons investir des milliards de dollars dans des édifices. Nous pouvons investir tout ce que toutes, des distractions mondaines. Nous pouvons construire les plus belles églises. C'est en ordre, rien de mal, c'est parfaitement en ordre. Mais je veux dire, ensuite, quand le message commence à s'agiter au-dessus d'eux, ils ne veulent pas de vous. Tu es un cinglé, tu es un fanatique, tu aurais dû vivre il y a 50 ans. Voyez? Oh, vous pouvez peut-être vous dire, je ne voudrais pas avoir un tel pasteur. C'est votre pasteur quand même. Jézabel n'a jamais voulu admettre qu'Élie était son pasteur, mais il l'était. Ça, c'est sûr. Il l'était certainement. Il avait été envoyé comme un exemple, un messager à la nation d'Israël. Et aujourd'hui, le précieux Saint-Esprit est la parole de Dieu. C'est un messager à l'Église. Pour les corriger et les ramener à la parole. Nous en parlons, mais vous ne voyez personne agir. Oui, voyez-vous, nous confondons tant ces choses. J'ai entendu quelqu'un dans une sorte de témoignage dire, « Élevez-le, comment l'élève-t-on ? » Et oh, il ne trouve que de petits ismes. Quelqu'un a dit, « Veillez et priez !» Ça veut dire, gardez un œil ouvert quand vous priez, regardez avec l'autre. Veillez et priez. Eh bien, veillez veut dire guettez la venue du Seigneur et mettez-vous en condition par la prière. Voyez-vous, on inverse la chose. C'est pourquoi, avec tout cela, que faisons-nous? Nous inventons notre petite tradition à nous. Ensuite, si, qu'elle soit selon Dieu ou pas. Et nous sortons à un moment donné, nous avons un petit groupe qui nous suit et nous les arrachons du corps principal de l'Église. C'est vrai, au lieu de venir prier et résoudre ce problème et laisser le corps aller de l'avant, nous faisons ces choses-là, qu'elles soient conformes ou pas. Si vous avez la vérité, alors tenez-vous-en à la vérité. C'est tout à fait vrai, mais que la vérité de la Bible passe avant tout. Remarquez, par le cet âge de Laodicée, et les prophètes, oui, le Saint-Esprit qui parle à travers Paul, c'est-à-dire le Messie, ce n'était pas Paul, c'était Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par Jésus-Christ. Hébreux 1. Remarquez, le Saint-Esprit, Christ, l'Évangile centré sur Christ, la parole centrée sur Christ. Et si elle est centrée sur Christ et qu'elle a été confirmée, Dieu confirmera quelle est la vérité. C'est pourquoi vous, les pentecôtistes, vous recevez le Saint-Esprit dans la foi des méthodes, en dépit de la sanctification des méthodistes, parce que vous étiez parfaitement conformes à la parole. C'est pourquoi vous, les méthodistes, vous avez été sanctifiés alors que les luthériens n'y avaient pas cru. Vous étiez conformes à la parole. C'est comme ça que vous, les luthériens, vous avez été sauvés, justifiés, parce que votre messager avait prêché la justification et qu'il avait protesté contre l'Église catholique, qui était une marque dérivée de tout. Il ne croyait qu'en l'Église. Vous, vous êtes revenu à la Bible et vous avez pris la vérité de cette Bible et vous vous en êtes tenu à elle. Ensuite, Wesley est arrivé avec une autre vérité et il s'en est tenu à elle. La Pentecôte est arrivée avec une autre vérité et elle s'en est tenue à elle. Alors, si vous pouvez vous en tenir à cela et que vous voyez que c'est vrai, pourquoi ne pas prendre la chose tout entière qui a été reconnue juste? Croyez-la entièrement. Maintenant, quand nous voyons ces messagers, alors nous savons. Nous voyons Christ, le grand Dieu prophète, qui a prédit que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Qu'est-ce que ça fait? Ça présente le temps de la récolte. Ça présente le temps où la récolte sera moissonnée. Ce qui arrivera dans les derniers jours. Vous le voyez? Or, ces choses arriveront dans les derniers jours. Nous savons le genre de récolte que nous recherchons. Nous cherchons une église qui avait autrefois la lumière, qui s'en est détournée, qui suit le prestige du monde, les manières très raffinées. Pas vrai? Elle s'éloigne, elle reçoit n'importe quel type de membre et tout. Et elle appelle ça des pentecôtistes. Elle baptise n'importe qui. Ce n'est pas l'eau qui sauve un homme. Il faut le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie dans l'eau. La vie vient de la cellule de sang. Il faut la sanctification pour purifier cette vie, pour détruire le désir du péché. Ensuite, le Saint-Esprit entre dans ces vases purs et les met à part pour le travail, pour le service. L'autel a sanctifié le vase, mais l'heure, c'est son remplissage qu'il a mis en service. Il a été mis à part pour le service. Alors, il faut qu'il soit mis en service. Et c'est le Saint-Esprit qui met l'Église en service. J'aimais ce petit chant. Ils étaient là, dans la chambre haute, priant tous en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit, et la puissance pour le service vint. Oui, et la suite dit, « Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il peut aussi le faire pour toi. » Certainement, la récolte. Les prophètes, là, nous nous sommes arrêtés sur Christ. Maintenant, nous revenons un peu en arrière. Ésaïe, le prophète, il a témoigné, prophétisé sur le temps de la fin. Il a dit, le corps entier serait plein de plaies vives. Toutes les tables seraient pleines de vomissements. Eh bien, aujourd'hui, les hommes et les femmes prennent la communion alors qu'ils vivent avec deux ou trois femmes ou deux ou trois maris. C'est vrai, toutes sortes de... Ils fument la cigarette, ils font toutes ces choses. Ils entrent dans l'église et ils prennent la communion. Bon, je pourrais approfondir un peu plus les choses, mais je vais attendre un peu. Peut-être que ce n'est pas approprié, là. Je sens que je ne dois pas en dire plus long sur ce que j'allais dire. Mais vous pouvez lire entre les lignes. Vous savez ce que la Bible dit. Quelles sont les choses convenables et les choses qui ne sont pas convenables? Toutes ces choses que nous voyons alors arriver, la nation, la science dit qu'il est, il y a 4 ou 5 ans, il est minuit moins 3. Israël est dans sa patrie. L'Église est dans Laodicée. Oh là là, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce qu'il y a? Nous attendons la lumière du soir. Oh, je me demande si elle venait, si nous la reconnaîtrions, ou est-ce qu'elle passerait par-dessus nos têtes, comme dans les autres âges. Ils ne le savent jamais avant qu'il soit déjà trop tard. Vous vous souvenez, ce sont ces religieux qui tuaient les prophètes, qui leur étaient envoyés. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, vous, hypocrites, il a dit, vous ornez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les y ont mis. Puis, ils ont bâti leurs tombeaux. Regardez l'Église catholique romaine. Ils ont orné le tombeau de Saint Patrick. Ils ont orné le tombeau de Jeanne d'Arc. Ils ont tué cette femme et l'ont brûlée comme sorcière parce qu'elle était spirituelle, parce qu'elle voyait des visions. Ils l'ont brûlée sur le bûcher comme sorcière. 200 ans plus tard, ils ont déterré le corps de ces prêtres et les ont jetés au fleuve pour faire pénitence. Ils ont reconnu qu'elle était une servante de Christ. Mais à son époque, ils ne savaient pas qui elle était, alors que l'Église continuait son trajet. Ça passera complètement au-dessus de la tête des gens. Et ils ne reconnaîtront pas cela. Jésus, il ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu avant qu'il soit mort, enterré et ressuscité. Pierre ne les a-t-il pas accusés le jour de la Pentecôte? Par la main des impies, vous avez pris le prince de la vie et vous l'avez tué, vous l'avez fait mourir. Oh, le signal rouge clignotant de sa venue est là. Amen. Nous sommes à la fin. Amen. Ce signal rouge clignotant est partout. Partout. Ichabod est écrit dessus. Le temps est terminé. Le temps est écoulé. La science est arrivée à sa fin. C'est vrai. Ils viennent d'inventer quelque chose avec lequel ils peuvent faire sauter le monde entier. Tout le monde a peur de son prochain. Ils sont au temps de la fin. La civilisation, elle est arrivée au point où les gens, le pendule bascule dans le sens inverse. Les gens n'agissent pas comme des civilisés. Pouvez-vous imaginer qu'un homme désire être un beatnik avec une longue barbe qui pend comme ça, son pantalon qui pend sur les hanches, qui se promène dans la cour d'école, débraillé? La capacité intellectuelle du monde qui viendra après celui-ci, s'il y en a un autre. Il faut sortir des petites filles de 14 ans. Elles sont là dans la rue. Aujourd'hui, dans mon motel, une mère était couchée là. Elle n'avait pas assez de vêtements pour boucher le canon d'un mousquet. Et son mari était couché là de la même manière. Et un vent froid. Ils se disent que leur corps est tellement joli qu'ils doivent l'exhiber. Ne vous rendez-vous pas compte que c'est le diable? C'est vrai, il les déshabille. Il n'y a que des aliénés qui font ça. Légion l'a fait parce qu'il était fou. Remarquez, et on a ça, mais ça s'appelle la mode, ça s'appelle moderne. Nous, on appelle ça le diable. J'ai la Bible pour prouver que c'est le diable. Il s'agit de la possession diabolique, de la possession démoniaque, non pas de l'oppression, la possession. Il vous tient, c'est vrai, parlez Laurent. Ils vont s'emporter. Ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. Non, monsieur, ils ont leur propre conception parce qu'à leur morgue qu'ils fréquentent, on ne réprimande jamais ces choses. Le sex-appeal se pratique dans les écoles et dans les églises. Et les pasteurs ont peur de réprimander cela. Ils le font très rarement. J'ai entendu un ministre l'autre jour, il a dit, quand on a inventé ce truc bleu pour les yeux et ce rouge à lèvres, on a rendu le monde plus joli. Un ministre de l'Évangile, derrière la chair, qui ferait un commentaire comme ça, il lui faut un voyage au calvaire. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, alors que la Bible condamne cela. Et un groupe pentecôtiste a dit à une sœur, elle est arrivée là en pleurs, parce qu'elle avait les cheveux coiffés derrière la tête. Elle avait des cheveux longs. Ils ont dit, ta roue de secours pourrait être à plat. Ils ont dit, tu dois couper ses cheveux. Parce que la Bible dit qu'elle avait, dans Ésaïe, chapitre 5, qu'elle avait des roues rondes comme une lune. Or, comment la Bible peut-elle dire que si une femme fait une chose qui n'est pas convenable, elle n'est pas digne qu'on vive avec elle? Quand elle coupe ses cheveux, elle prouve qu'elle déshonore sa tête. Ensuite, les cheveux longs. Comment pouvez-vous faire dire quelque chose comme ça à la Bible? Eh bien, que se passe-t-il avec nos femmes pentecôtistes? Vous avez trop regardé la télévision, vous avez trop vu du monde, et la parole de Dieu ne vous intéresse pas assez. Or, c'est la Bible qui dit ça. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi, là, c'est la Bible. Oh, du sex-appeal. Il n'y a pas longtemps, une dame m'a dit, je faisais sans cesse des remarques sur celles qui portent des shorts. Elle a dit, moi, je porte des pantalons. J'ai dit, c'est pire. Vous, c'est la Bible qui le dit. Il ne peut pas changer. Vous dites, ça, ce sont les baptistes. Ce sont les pentecôtistes. C'est à vous que je parle. C'est ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un a levé les barrières quelque part. Autrefois, un vieux prédicateur, un ami à moi, disait, On a levé les barrières. On a levé les barrières. On a fait des compromis avec le péché. On a levé les barrières. Les brebis sont sorties. Mais comment les boucs sont-ils entrés? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand vous avez levé les barrières de la parole de Dieu. Souvenez-vous, au commencement, c'était le programme de Dieu de fortifier son Église par sa parole. Et quand Ève a raisonné et qu'elle a dit, « Eh bien, maintenant, n'est-ce pas raisonnable? Je peux mener une vie aussi bonne qu'eux. » Ah, cela a fait son effet. Et cela a toujours fait son effet. C'est pourquoi il lui était interdit d'être prédicateur. Voyez-vous, cela a simplement levé les barrières. C'est là que l'Église, sa source, a émergé à la Pentecôte. Et c'est ça la source. Il n'y a aucun passage de l'Écriture à ce sujet. Voyez? Or, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous obtenez la même pagaille que vous avez eue là en Éden. Remarquez maintenant, alors qu'on en arrive à la parole, vous en dites, personne ne peut y résister. Je défie n'importe qui de le dire. Quand j'ai prêché sur la semence du serpent, tant de gens se sont emportés à ce sujet. J'ai demandé que quelqu'un vienne me confronter à ce sujet. Je ne les trouve pas. Il n'y a pas longtemps, à Chicago, vous avez les bombes. Ils ont cru m'avoir piégé sur quelque chose. Ils avaient toute l'association pastorale du Grand Chicago. Frère, comment? Tommy Hicks. Frère Carlson était là. Et deux nuits plus tôt, le Seigneur m'avait réveillé pendant la nuit. Il a dit, va à cette fenêtre. J'y suis allé. Et il y avait de l'orage. Il a dit, maintenant, ils t'ont tendu un piège. Il a dit, à ce petit déjeuner, n'aie pas peur. Vas-y. « Je serai avec toi. » Bon, ceci, c'est au nom du Seigneur. Vous pouvez leur demander pour vérifier. C'est sur les bandes. Cela a été annoncé à l'avance. Il a dit, « Maintenant, n'aie pas peur d'y aller, mais vas-y, a-t-il dit, « Je serai avec toi. » Et le lendemain, j'ai rencontré Frère Carlson, le responsable du chapitre là-bas, et Tommy Hicks. Il m'avait dit que je les rencontrerais et que nous irions dans un endroit appelé « Town and Country » pour le petit déjeuner. Je me tenais exactement là. J'ai dit, « Frère Hicks, tu es un docteur en théologie et nous allons rencontrer un grand groupe de ministres ici, leur association de Chicago. Pourquoi ne vas-tu pas parler à ma place? J'ai fait beaucoup de choses pour toi. » Je le testais simplement. Il a dit, « Oh, je ne pourrais pas faire ça, frère Branham. » J'ai dit, « Eh bien, pourquoi n'y vas-tu pas ?» J'ai dit, « Moi, je ferai n'importe quoi pour toi. Maintenant, pourquoi ne le fais-tu pas pour moi ?» Il a dit, « Oh, je ne pourrais pas le faire, frère Branham. Il n'accepterait jamais ça. » Frère Carlson a dit, « Non, il n'accepterait pas. » J'ai dit, « Vous savez pourquoi ?» J'ai dit, « Je vais vous dire quelque chose. C'est parce que vous savez tous les deux qu'ils m'ont tendu une question piège. » Et j'ai dit, « Vous le savez. Or, ceci est enregistré. Si vous voulez avoir cette bande, nous pouvons la voir. Et vous connaissez tous ces hommes. » Alors, j'ai dit, « Avant-hier soir, j'ai une vision qui disait que nous serions ici ce matin et que Tommy refuserait ceci. » J'ai dit, « Maintenant, regardez bien. Vous avez loué une salle de cet hôtel-là. Oui, la réservation a été payée. Oui, frère Carlson. Mais vous n'allez pas pouvoir la garder. » C'est ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Vous aurez votre réunion dans un autre endroit. C'est une salle verte. Nous irons dans une salle brune. Moi, je serai dans le coin. Le docteur Meade s'asseoira à ma droite. Et ce brave ministre de couleur et sa femme s'asseoiront de ce côté-ci, à gauche. La façon précise dont cela allait se passer, comme ça. Et j'ai dit, regardez bien, là, allez, venez. Vous avez vu Dieu guérir les malades. Observez-le au combat, une fois. J'ai dit, il est grand et admirable. J'ai dit, observez simplement les questions et vous verrez que tous resteront en silence. Et quand nous sommes arrivés ce matin-là, si vous voulez obtenir la bande, Jim, tu l'as? Ne l'as-tu pas apportée? Elle est là, elle est là. Vous pouvez avoir la bande si vous voulez l'obtenir de cette réunion-là. J'ai dit, qu'avez-vous à me reprocher? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Frère Carlson a dit, eh bien, frère Branham m'a dit, il y a deux jours, que nous devrions, et ils n'ont pas obtenu ce bâtiment, ils l'avaient annulé. Ils n'ont pas pu les laisser l'avoir parce qu'une quelconque bande de musiciens l'avait eu et ne savaient pas qu'ils avaient versé un acompte là-dessus. Alors, ils ont dû annuler la réservation des hommes d'affaires. Et vous en avez probablement entendu le message. Frère Williams, ici, est là aussi. Et il a dit, frère Branham m'a dit exactement là où chaque personne serait assise. Il m'a dit exactement ce qui arriverait. Il a dit, une chose est sûre. Il a dit, beaucoup d'entre nous peuvent être en désaccord avec frère Branham sur son message. Mais, a-t-il dit, nous sommes bien obligés d'admettre une chose, c'est qu'il n'a pas peur de la porter. Alors ensuite, il a dit, il ne recule devant rien pour la porter. Il a dit, maintenant, c'est votre tour, frère Branham. J'ai dit, bon, avant de commencer, je veux que quelqu'un, au sujet de quelque chose que j'ai dit, prenne cette Bible et se tienne ici, à côté de moi. C'était le groupe le plus silencieux que vous ayez jamais entendu. J'ai dit, alors, si vous ne pouvez pas soutenir cela, laissez-moi tranquille. Oui, frère, je suis là pour me tenir à vos côtés. Mais nous devons revenir aux faits bibliques. Il a dit, pourquoi ne laissez-vous pas ces femmes tranquilles? Oh oui, vous êtes un, les gens croient que vous êtes un voyant de Dieu. J'ai dit, je n'ai jamais dit ça. Il a dit, mais les gens croient cela. Il a dit, pourquoi ne laissez-vous pas ces femmes tranquilles? Il a dit, et arrêtez de leur parler de la façon dont elles devraient s'habiller, couper leurs cheveux et les choses qu'elles devraient utiliser. Pourquoi ne les laissez-vous pas tranquilles? Pourquoi ne leur enseignez-vous pas comment recevoir des dons et faire quelque chose pour la gloire de Dieu? J'ai dit, voyons, comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'elles ne veulent même pas apprendre leur ABC? C'est vrai, vous devez revenir au point de départ. Que Dieu ait pitié de nous maintenant. Oui, monsieur, nous en sommes là, au temps de la fin. Le feu rouge est là, il clignote. La venue du Seigneur est proche. Oui, monsieur, écoutez, le message du temps de la fin doit remplir les conditions du temps de la fin. Là où ils se sont écartés, le message devrait ramener cela. Toujours, le message du temps de la fin remplit les conditions du temps de la fin. D'un bout à l'autre des Écritures, il devra le faire cette fois-ci. Un rappel à la parole originelle. Oh là là, comme les autres messagers l'ont fait à leur époque. Ce message devra faire la même chose. Cela nous a été promis. Dieu l'a promis dans sa parole. Dans Malachie 4, il est dit que cela arriverait. Ramener la foi des enfants au Père. Cela nous a été promis et nous vivons en ce jour-là. Oh, cela a toujours été ainsi, à tous les coups, un groupe de dirigeants qui entraînent les gens dans la confusion totale. Il ne s'agit pas tant des gens, ce sont les dirigeants qui les entraînent dans la confusion. Maintenant, nous, vous dites, « Oh, frère Branham, mais bon, un instant là, nous devons trouver ça dans les Écritures. Si ce n'est pas l'Écriture, alors ce n'est pas bon. Par leurs paroles de sagesse, dans leur conduite sans inspiration, des paroles de sagesse mondaine, ils, eh bien, certains de ces génies peuvent placer cela ensemble. Mais vous pensez que Satan n'est pas un génie dans ce domaine, lui aussi? Eh bien, ne s'est-il pas approché de Jésus-Christ et ne lui a-t-il pas donné une raison et lui a même cité les Écritures? Il l'a fait. Il est un génie dans ce domaine. Mais Jésus n'en a pas débattu avec lui. Il a dit, « Il est aussi écrit. Arrière de moi, Satan. » Oui, une conduite sans inspiration. Regardez Corée, à l'époque où Dieu avait envoyé Moïse avec le message. Corée et Dathan se sont dit, ils se sont approchés de Moïse, et ils ont dit, « Un instant là, tu en prends trop sur toi. Tu penses que tu es le seul caillou sur la plage, le seul canard dans la flaque d'eau, que tu es le seul. Figure-toi qu'il y en a aussi d'autres qui sont saints. » Moïse n'avait pas dit qu'il n'était pas saint, mais il avait un mandat. Ils devaient l'exécuter. Ils ont organisé un groupe qui s'opposait à Moïse. Et Dieu lui a dit, « Va te placer à la porte. » Ces gens tenaient l'encensoir à la main. Et vous savez ce que cet encensoir aurait fait. Dieu a ouvert la terre et les a engloutis. Et ils avaient du feu de l'autel là-dedans. Avec le feu dans l'encensoir, aussi fondamental que c'était, ils n'ont pas reconnu le message. Dieu a dit, « Je t'envoie là, Moïse, pour le faire. Emmène-les ici. » Voyez-vous, ils ne l'ont pas reconnu. Moïse était trop direct avec eux, comme Élie pour l'école des prophètes, trop direct. Ils sont tenus à la parole. C'est ce qui a fait que vous, les pentecôtistes, vous avez dû vous séparer du reste du monde. Vous étiez d'aplomb avec la parole. Maintenant, ne dépérissez pas en retournant dans la chose même d'où vous êtes sortis. Vous êtes en train de vous éloigner. Ne coupez pas votre ancre du calvaire. Accrochez-vous à la parole de Dieu, car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tenez-vous-en à elle. Or, Dathan et les autres pensaient qu'il pourrait y avoir d'autres hommes. Voyez-vous, ça, c'est l'intelligence des hommes qui essayaient d'injecter leurs idées dans le plan de Dieu. Ça, c'est bon. L'intelligence des hommes qui essayent d'injecter leurs idées dans la parole de Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Regardez Jésus, quand il était là, il a dit, « Qui de vous peut me déclarer coupable de péché? Qui de vous peut prouver que je n'ai pas fait exactement ce que les Écritures ont dit que je ferais? J'affirme être le Messie, et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors non, ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres et que vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que je fais. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Exactement. Et ils n'ont pas pu y croire. Ils ne voulaient en faire qu'à leur tête. Ce n'est peut-être pas leur intention être dans l'erreur. Ils ne veulent pas. Je ne crois pas que c'est l'intention des hommes. Je trouve de braves gens dans ces grandes églises dénominationnelles. Je trouve de braves hommes. Mais c'est comme l'a dit cet avocat à la radio quand je venais ici. Ce qui est bizarre, c'est la façon dont les membres du clergé peuvent se tenir derrière la chaire et voir ces temps arriver sans que leur juste indignation ne soit excitée à cause des péchés du monde. Et c'est un avocat qui se lève et dit ça. Et les laïcs sont prêts à utiliser leur argent sur toutes sortes de zoos et de parcs et tout, sans donner leur appui au programme des missionnaires pour porter l'évangile au monde, alors que les missionnaires ont faim, qu'ils n'ont pas de chaussures aux pieds. Alléluia! Aucune dénomination ne leur donne son soutien à cause de leur position pour la parole de Dieu. Ils ne reçoivent aucun soutien. Si vous trouvez des gens là-bas qui ont du soutien, alors qu'est-ce qu'ils ont? Tout un tas de dogmes. Un vrai, un véritable missionnaire, accompagné de miracles, est obligé de dépendre d'une blanchisseuse qui économise quelques sous afin de les lui donner. Remarquez, voilà, peut-être ne veulent-ils pas. Eh bien, mais qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Ils sont aveugles. C'est Jésus qui l'a dit. Souvenez-vous, Jésus a dit la même chose. Et il semble qu'aujourd'hui, or, écoutez, j'espère que je ne critique pas. Quand on établit une vérité, ne pensez pas que je critique. J'essaie simplement de, j'aime, et si vous ne, je suis animé de zèle pour l'Église. Ici, c'est probablement une Église des Assemblées de Dieu, ou quoi que ce soit, ou je ne sais pas ce que c'est. Ce que, pour moi, ça ne change rien. C'est une Église de Dieu. C'est ce que c'est, je crois. C'est une Église de Dieu. Eh bien, or, nous devrions tous l'être, pas l'Église dénominationnelle de Dieu, mais nous devons être des chrétiens de cœur. L'Église de Dieu se trouve ici, dans les murs. Il ne s'agit pas du nom et tout. Or, aujourd'hui, on donne trop d'importance à ça. L'adhésion est tout ce qui compte pour les gens. Or, regardez les baptistes avoir un réveil. Oh, ils en ont eu un. Ils avaient un slogan en 44. 1 million de plus en 44. Les messages de Billy Graham sont diffusés. Mais bien sûr, ça a été une grande chose. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, ça a été une grande chose. Mais qu'avons-nous obtenu? Jésus a dit aux pharisiens, « Vous êtes des aveugles qui conduisent des aveugles. Vous courez la mer pour faire un prosélyte. Elle devient un fils de la gêne 2 fois plus que quand il a commencé. » Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Billy Graham, quand j'ai assisté à son petit déjeuner à Louisville, au Kentucky, il est arrivé là-bas, bien ferme, comme un évangéliste. Il a dit, « Je vais. » Paul a dit, « Voici l'exemple. » Il a dit, « Paul allait dans une ville et il avait un converti. » Il y retournait une année plus tard et il en avait 30 qui s'étaient convertis par l'entremise de celui-là. Il a dit, « Moi, je vais dans une ville et j'ai 30 000 convertis et j'y retourne une année plus tard et je n'en trouve pas 30. » Il a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et j'ai admiré l'approche de cet évangéliste. Il a pointé son doigt là. Environ 300 hommes étaient assis là. Il a dit, « C'est à cause de vous, bande de prédicateurs paresseux. » Il a dit, « Vous restez assis au bureau, les pieds sur le bureau, et vous appelez un homme au téléphone, et vous lui demandez de venir et d'adhérer à votre église. C'est vous qui devriez lui rendre visite. » J'étais là, je me disais, « Oh Dieu, tu sais, évangéliste Billy, tu es un grand homme. » Moi, je suis un simplet, mais je vais te demander quelque chose. J'aurais voulu pouvoir me retourner et dire ceci, mais j'admire ce frère. Je pense qu'il est un serviteur de Dieu, mais j'aurais simplement voulu dire ceci. Alors, Billy, quel genre de prédicateur Paul avait-il pour suivre son converti? Qu'est-ce qui s'est passé? Paul n'a pas seulement accepté qu'il lève la main pour prendre une décision. Il l'a emmené jusqu'au baptême du Saint-Esprit qui a embrasé son âme et il ne pouvait plus se taire. C'est ça le problème aujourd'hui. L'adhésion. Oui, les membres, le grand nombre de membres, de grandes classes d'école du dimanche, donner des prix à quelqu'un qui peut faire du prosélytisme et qui amène quelqu'un d'autre d'une autre église, qui en a eu le plus. Vous savez, ça, c'est du pharisaïsme. Et puis, se vanter tellement de cela, nous les avons devancés dimanche passé. Si vous en êtes arrivé au point où vous devez faire de l'église, de Dieu, une foire d'empoigne, alors il est temps de fermer les portes et de rentrer chez vous. L'église de Dieu est un article vivant de Dieu sur la terre. Elle manifeste Jésus-Christ. Je sais que cela n'est pas populaire. On ne peut pas s'attendre à ce que ça le soit. Nous nous attendons à marcher droit. Ils se vantent tellement de tout ça. Mais saviez-vous que tout ce bruit n'a pas affecté le prophète Élie? Il avait entendu le feu passer, la fumée, les tonnerres et les éclairs, le sang et l'huile et tout le reste. Ça ne l'avait jamais perturbé. Vous savez, l'Amérique cherche toujours de grandes choses, accompagnées de beaucoup de bruit. Mais Dieu est une petite voix tranquille qui attire le prophète. Vous savez, un chariot est allé un jour dans un champ. Il cahotait et faisait beaucoup de bruit quand il est allé dans le champ. Au retour, il est passé par les mêmes cahots, mais il n'a fait aucun bruit. Il était chargé de bonnes choses. Voyez? Oui. Mais nous fondons notre expérience sur beaucoup de bruit. Comment pouvons-nous faire cela? Comment pouvons-nous faire ces choses-là? Oh là là! Ensuite, introduire ce tape-à-l'œil de Hollywood, avoir à la chair des femmes qui portent des vêtements très serrés et sexy, qui dansent par l'esprit. Je ne sais pas de quel genre d'esprit il s'agit. Je n'ai pas l'intention de critiquer, là. Je vous aime. Sinon, alors Dieu me jugera si j'ai un autre objectif que celui-là. Voyez? Mais vous saisissez ça, voyez-vous? C'est là que les pentecôtistes ont dérivé. Nous en avons plus que le frère au coin. Oh, nous en avons plus que les assemblées, parce que nous sommes les unitaires, ou nous sommes les trinitaires, et nous sommes les... Oh, ceci, cela, ou autre chose. Toutes les différentes étiquettes qu'ils ont, vous voyez. Oh, mon frère, ça ne comptera pas plus que ça pour Dieu. Il traite avec un individu, c'est vrai. Remarquez, beaucoup de bruit, mais cela n'avait pas attiré le prophète. Le prophète ne s'était pas intéressé à tout ce bruit. Mais quand il a entendu cette petite voix tranquille, il a su que c'était la parole. Il s'est voilé le visage et il est sorti. Vous savez, le soleil peut tirer plus d'eau en 15 minutes sans faire aucun bruit et nous faisons plus de bruit en puisant un gallon d'eau que le soleil n'en ferait en tirant un million de tonneaux. C'est vrai. Nous cherchons toujours quelque chose de grand qui fait pousser beaucoup de « hurrah » et beaucoup de vacarme. Mais quand il s'agit de prendre la parole, alors la chose se manifeste. Voyez, ils viennent et ils disent « Eh bien, Dieu soit béni !» Je vous dis, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un homme ici. Je ne dis pas ça pour être sacrilège. Veuillez me pardonner si ma réflexion rend cela sacrilège. J'assistais à une réunion sous la tente et le ministre, un ministre pentecôtiste, avait emmené sa femme pour jouer du piano. Et quand il m'a présenté à sa femme, honnêtement, j'ai failli m'évanouir. Cette femme avait des cheveux très courts, frisés. Elle portait des boucles d'oreilles énormes. Elle avait suffisamment de manucure sur les lèvres ou quoi que ce soit, du vernis sur ses ongles. On aurait dit qu'elle était une... C'était horrible à voir. Des griffes immenses. Et comme ça, elle avait l'air sexy. Elle portait une toute petite robe courte. Elle n'arrivait même pas à se couvrir les genoux avec ça quand elle s'est assise. Eh bien, je suis resté là un petit moment. Et j'ai dit, « Frère, est-ce que ça vous offenserait si je disais quelque chose ?» Il a dit, « Eh bien, certainement pas. Un homme gentil. Elle semblait être une femme gentille. » J'ai dit, « Vous dites que votre femme est une sainte ?» Il a dit, « Oui. » J'ai dit, « Excusez-moi d'exprimer ceci, mais pour moi, elle a l'air d'une feinte. » J'ai dit, « Vous savez, ou quelque chose comme ça. » J'ai dit, « Il a dit, « Que voulez-vous dire, frère Branham ?» Oh, il a dit, « Vous êtes de la vieille école. » J'ai dit, « Je suis de l'école des Écritures. » C'est vrai, l'école des Écritures. Je ne crois pas qu'une sainte se comporte comme ça. Je ne peux vraiment pas, alors que la Bible condamne autant ces choses. Voyez? Très bien. On dirait à tous les coups, tout ce qu'on entend dire, eux, ils en ont eu 40 qui ont pris une décision. 44 qui ont pris une décision. Nous en avons eu 300 qui ont pris une décision. Eh bien, ça, c'est une confession. Les confessions, ce sont des pierres. C'est vrai. En effet, Pierre, sur sa confession, a été appelé Pierre, petit roc, Pierre, sa confession. Or, les pierres, c'est très bien. Mais à quoi sert? Ou quelle est la valeur d'une pierre pour un édifice s'il n'y a pas un vrai maçon là avec un outil tranchant de la parole pour les tailler et en faire des fils de Dieu. Voyez, à quoi sert une confession? Voilà pourquoi vous revenez et vous n'en trouvez pas 30 sur 30 000. Vous avez seulement roulé les pierres hors de la poussière et vous les avez roulées jusque-là, mais elles ne sont pas encore ajustées pour le temple. Elles doivent être taillées à la dimension de la parole de Dieu, placées là-dedans, cimentées ensemble, édifiées sur le fondement de la doctrine des apôtres. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et il a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » C'est vrai. Comment pouvons-nous être l'Église alors que nous nous méprisons les uns les autres? Il a dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. » Alors que nous, on fait du prosélytisme et on se divise pour des différents dénominationnels. Je ne mets pas ça sur le dos des gens, je mets ça sur le dos de la dénomination. C'est vrai, il ne s'agit pas du tout des gens, voyez. Oh, c'est terrible. Pourtant, vous devez avoir cet outil tranchant, la parole de Dieu, pour les façonner et faire d'eux des fils de l'édifice. Oh là là, ma prière, oh Dieu, ne tarde pas à susciter Malachie 4. Donne-nous le message en ces derniers jours. Donne-nous quelqu'un, envoie quelque chose pour sauver cette église pentecôtiste. Quel genre de messager Dieu nous enverra-t-il pour ces derniers jours? Je vous dirai ceci, mon frère, ma sœur, en tant que votre frère et compagnon de service, qui attend que ce moment arrive, il sera le même genre de messager qui est venu aux autres époques, le même genre. Il ramènera l'Église à la parole. Ô Dieu, puissions-nous poser un fondement pour cela avant que cela arrive ici, avant qu'il vienne. Puissions-nous poser un fondement, être des pierres taillées, prêtes à nous tenir à ses côtés, quand Dieu l'enverra, car il a promis qu'il le ferait. Maintenant, je sais, je sens que cela revient. Et souvenez-vous, avec un petit don, je peux saisir cela par le discernement de l'Esprit. Voyez-vous, maintenant, vous n'appréciez pas cela quand j'ai dit Malachie 4. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit, Jésus a dit, si vous pouvez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie dont il est parlé. Mais si vous voyez ce qu'il a dit dans Matthieu, chapitre 11 et le verset 6, si vous pouvez le comprendre, c'est lui dont il est parlé et dit, j'envoie mon messager devant ma face. Ça, c'était Malachie 3. Pas Malachie 4. En effet, dans Malachie 4, il a dit, « Avant que ce jour arrive, la terre sera brûlée et les gens marcheront dessus. Elle sera brûlée, elle sera comme du chaume. » C'est vrai, il parlait alors du messager qui sera envoyé devant sa face, qui était un Élie, qui dit, « Je ne crois pas à toutes ces choses qui circulent aujourd'hui au sujet de la robe d'Élie et toutes ces choses. Tous ces charlatans doivent venir, bien sûr, pour contrarier la vraie chose quand elle viendra. Mais je vais vous dire une chose, un messager paraîtra à la fin de cet âge pentecôtiste. Il mènera la chose à terme. Ce sera un homme, pas un groupe, pas une dénomination, mais un homme. Ça a toujours été le cas et Dieu ne peut pas changer son programme. Il est le Dieu éternel. Souvenez-vous, si ce messager, Jean, était le messager de Malachie 4, alors les Écritures ont échoué, car elles disent, elles, la terre sera brûlée, elle sera comme du chaume, et les justes marcheront sur la cendre des méchants. Alors, lisez-le et voyez si ce n'est pas vrai. Voyez, mais Jésus n'a jamais dit ça. Il a fait référence à Malachie 3. J'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin pour moi. C'est tout à fait vrai. Or, mais souvenez-vous, cet autre devait ramener la foi des enfants au Père. Ramener la foi des enfants à la foi des pères. La Bible originelle. C'est exactement ce que Moïse a fait. C'est exactement ce que Jésus a fait. C'est exactement ce que chaque messager a fait d'un bout à l'autre de la Bible, au temps de la fin, à la fin de cette dispensation. Ils ont ramené le message. À cause des organisations et ces choses, les gens étaient dans la confusion totale à cette époque-là. Ils ont fait la même chose aujourd'hui. Alors nous attendons un messager. Oh Dieu, envoie-le! Pensez-vous qu'on le recevra? Non, monsieur. Il sera un détraqué et un fanatique, assurément, mais Dieu l'attestera. Les vrais croyants, ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, Jésus a dit, « Tous ceux que le Père m'a donnés viendront, et nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a, au passé, donnés, ils viendront. » C'est vrai, ils étaient. Je ne crois pas à cet enseignement baptiste sur la sécurité éternelle. J'y crois dans un certain sens, mais je crois que vous êtes en sécurité tant que vous êtes dans l'Église. Mais si vous sortez de sous le sang de Jésus-Christ, vous n'êtes pas en sécurité. Je suis à l'abri de la pluie tant que je suis ici, à l'intérieur. Eh bien, lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et vous déclarez avoir le Saint-Esprit, et ensuite vous niez la parole de Dieu, vous déclarez que vous avez cru et reçu le Saint-Esprit, et ensuite vous niez que la parole est vraie, alors comment est-ce que cela pourrait être le Saint-Esprit alors qu'il est celui qui a écrit la Bible? Le Saint-Esprit nierait sa propre parole en disant « Je me suis trompé, vous avez raison ». Non, ça ce n'est pas Dieu, non monsieur. L'épée est tranchante. Seigneur, envoie-nous un grand message. C'est ce que nous attendons. Alors, bien entendu, quand il viendra placer ses pierres, les tailler pour l'édifice, qu'arrivera-t-il? Beaucoup d'entre eux ne supporteront pas l'épreuve de la parole. Ils aimeront leur organisation plus qu'ils aiment la parole de Dieu. Bien que cette parole soit confirmée par cet homme, il sera un prophète qui viendra au nom du Seigneur, et ce sera lui qui viendra sur la terre, je le crois. Oh, tout le monde dit, ça sera un groupe de gens. Je voudrais que quelqu'un me montre dans la Bible où il est dit que ça sera un groupe de gens. Dieu manquerait à sa propre parole. Il ne peut pas le faire. Non, monsieur, il a promis ceci. Ce sera un seul homme. Et puis, il y en aura d'autres avec lui, bien sûr, des milliers. Tous les croyants de l'Église seront avec lui. De partout. Comme à l'époque de Noé, il n'y en aura pas beaucoup qui seront sauvés, parce que Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé. Le savez-vous? Ce qui arriva du temps de Lot, comptez-les, arrivera de même. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, mon frère, nous ferions mieux de faire l'inventaire. Il pourrait être vraiment plus tard que nous le pensons. Il se pourrait qu'on se réveille un jour et qu'on voit qu'on a manqué quelque chose. Faites attention, observez, priez, examinez, cherchez. Ne le laissez pas vous échapper. Et souvenez-vous, quand la parole de Dieu est prêchée, Dieu est tenu d'accomplir cette parole et de la confirmer. Vous savez ce qu'il a dit là, ce qui est arrivé du temps de Lot? Il a dit ce qui arriva du temps de Lot. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas, juste avant que le feu ne tombe? Qu'est-ce qui arriverait de nouveau, juste avant que le feu ne tombe? Quel genre de message l'Église aurait-elle? Il ne s'agit pas de Sodome là, mais de l'Église élue. Gardez simplement ces trois choses-là à l'esprit. Il y avait les sodomites, il y avait Lot et son groupe, l'Église formaliste, et il y avait Abraham, l'élu. Tous les trois avaient reçu un message, oui, par différents messagers. Observez le genre de messager qui est allé vers l'Église élue, ce qu'il a fait à Abraham. Jésus a dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Or, nous ne pouvons pas nier cela. C'est exactement ce que Jésus a dit. Donc, bien sûr, il en sera ainsi. Or, beaucoup, quand Jésus est venu, il a donné le test et il a dit, « Sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. » Est-ce qu'ils ont supporté le test? Non. Et tout le monde sait que toutes les confessions de roc qui ne supportent pas le test de la parole sont jetées au dépotoir. C'est fissuré, il y a une fuite d'eau, ça ne supportera pas le test. Oh, mon vieux, alors c'est envoyé au dépotoir. Dieu a toujours considéré le caractère plutôt que les nombres. Je termine. Je suis désolé de vous avoir gardé si longtemps. Ce n'était pas mon intention. Je vais juste prendre un instant ou deux pour faire cette dernière remarque. Puis, j'arrêterai dans une minute. J'espère que j'ai dit quelque chose pour vous aider, voyez-vous, pour vous amener à étudier, voyez. Dieu a toujours considéré le caractère, pas les membres. Et aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Nous considérons les membres, les jolies tenues, les bons payeurs, plutôt que le caractère. Oui, Eliezer s'était donné beaucoup de mal avant de trouver du caractère. C'est vrai. Qui allait-il trouver? Et il s'était confié en Dieu. Du caractère pour quoi? Du caractère pour Isaac, l'épouse, le type qui représente l'Église. Vous le savez. Là, c'était la semence naturelle d'Abraham. Ici, c'est la semence royale d'Abraham. Eh bien, si Eliezer, ce messager qui recherchait l'épouse, essayait de trouver du caractère, si cet homme vient, le messager du dernier jour, pour essayer de trouver l'épouse pour Christ, il ne cherchera pas une adhésion dénominationnelle. il cherchera un caractère bien disposé. Remarquez, d'abord, le bon caractère, ensuite, la préparer à rencontrer Isaac. Après avoir trouvé le caractère, il a fait en sorte qu'elle reste tranquille assez longtemps pour qu'elle écoute son message au sujet d'Isaac. Voilà le messager des derniers jours, la lumière du soir. Il s'agit d'abord de trouver cette église-là. Où croira-t-on le message? Recherchez cela. Vous comprenez ce dont je parle? Cherchez là où se trouve cette église, où l'on vous permettra d'entrer, où l'on ne vous claquera pas la porte au nez. Ensuite, quand vous y êtes, alors vous avez trouvé du caractère. Maintenant, si elle veut bien rester tranquille assez longtemps pour qu'on lui dise la façon dont cette épouse doit être habillée, elle doit être vêtue. Restez tranquille. Si elle pouvait, regardez la petite Rebecca qui écoutait chaque mot. Son petit cœur battait. Elle, il le lui annonçait. Bon, tu t'es donné beaucoup de mal. Où irai-je? Jusqu'à ce que je trouve le caractère. Ensuite, quand je trouve le caractère, alors je fais en sorte qu'elle reste tranquille assez longtemps pour qu'elle soit prête à aller à sa rencontre. Oh là là, comme c'est frappant. J'aimerais qu'on ait un peu plus de temps sur cette horloge. La préparer, qu'elle reste tranquille pour écouter son message à lui. Eliezer ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de celui pour qui il avait été envoyé. Et il avait les dons pour prouver qu'il avait été envoyé par lui. Amen. Il voulait la vêtir de ces choses. Vous savez comment il l'a préparée. Si seulement je pouvais l'amener à se laver le visage. Voyez, vous savez, je sens que je ne dois pas continuer là-dessus. Alors je ferais mieux de rester tranquille. De toute façon, j'en ai assez dit. Vous savez de quoi je parle. Très bien, écoutez, restez simplement tranquille. Remarquez, le messager du temps de la fin. Son travail sera de préparer les saints, de préparer l'épouse pour l'époux. Voilà ce que sera son message. Maintenant, voulez-vous apprendre l'ABC pour pouvoir étudier l'algèbre plus tard? Quand ces autres sceaux qui sont au dos seront ouverts, ils ne seront révélés qu'à eux. C'est vrai. Apprenez d'abord l'ABC. L'ABC, qu'est-ce que c'est? Toujours croire Christ. En anglais, always believe Christ. Non pas votre credo, Christ. Voyez, croyez ce qu'il dit, non pas ce que quelqu'un d'autre dit. Si c'est contraire, si un homme vous dit, il n'y a pas de mal à ce que vous vous coupiez les cheveux, les femmes, vous savez qu'il ment. La Bible dit que c'est mal. S'il dit, vous pouvez être diacre et avoir 4 ou 5 femmes, il ment. C'est contraire à la parole. Voyez, toutes ces autres choses dont nous parlons, confrontez cela avec la parole et voyez si c'est vraiment la parole. Ramenez l'Église à la parole. Maintenant, qu'est-ce que ce messager de Malachie 4 doit faire? Ramener la foi originelle, la foi pour la résurrection. Là, ils ont vu Jésus après qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ils l'ont vu agir parmi eux. C'étaient des hommes qui parlaient peu. Ils se sont avancés. Ils ont prêché la parole. Oh, ils prêchaient longtemps. Une fois, Paul a prêché toute la nuit. Voyez, un homme est tombé du bâtiment et il est mort. Il a posé son corps sur lui, il l'a ramené à la vie. Voyez, 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 il a continué à prêcher. Or, remarquez qu'ils étaient différents, des docteurs en philosophie, docteurs en droit, QUST, et peu importe le nom que vous donnez à cela d'aujourd'hui. Qu'est-ce? Ils séparent le messager et le message plutôt par le messager. Il séparera les croyants des incrédules. Certains d'entre eux s'aligneront sur le message, d'autres non. Certains luthériens, certains catholiques avaient suivi Luther, d'autres non. Certains luthériens ont suivi les méthodistes, d'autres non. Certains suivent les pentecôtistes, d'autres non. Certains suivront la lumière du soir, d'autres non. Comment allez-vous savoir si c'est la lumière du soir ou pas? Testez cela avec la parole, pas seulement avec une parole, avec la parole tout entière, pour voir si c'est vrai ou pas. Oh, qu'est-ce qu'on y trouve? Ensuite, si ce message produit la confirmation que c'est Dieu qui est en train d'accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait, et que cela est conforme à la parole, alors la parole est confirmée comme les autres prophéties d'autrefois. Remarquez, quand les gens rejettent le message et que le messager semble être complètement vaincu, aucune autre porte ne s'ouvre devant lui. Il n'y a plus accès, comme ce qui est arrivé à notre Seigneur. Souvenez-vous, quand il guérissait les malades, ce jeune prophète, oh là là, c'est un homme formidable. Bonjour, Rabbi, comment allez-vous? Mais un jour, il s'est assis et il s'est mis à leur dire la vérité. Il était bien vu de l'Église, du peuple. Des milliers l'avaient suivi. Il avait 70 ministres autour de lui, à part les 12. Mais un jour, après qu'il avait changé le pain, ou qu'il avait changé le multiplié les pains, pour prouver qu'il était Dieu. En effet, Dieu seul faisait pleuvoir du pain du ciel. Oui, voyez, il avait multiplié les pains, et immédiatement après ça, il avait marché sur l'eau, fait des miracles, et fait les choses qu'il avait faites, pour prouver qu'il l'était. Ensuite, à ce moment-là, il s'est mis à reprendre carrément les gens. Les gens se sont détournés, et les 70 ont dit, « qui peut écouter ceci? Cette parole est dure. Tu détruis ce que nous pensions, car nous pensions que c'était autre chose. Mais qui es-tu pour nous dire ces choses ?» Ils sont partis. Ensuite, Jésus s'est tourné vers son petit groupe, comme au jour de Noé, comme au jour de Sodome. Il a dit, « Voulez-vous aussi partir ?» Alors Pierre a prononcé ces paroles remarquables. « Seigneur, où irions-nous ? Que Dieu nous aime !» Remarquez que le message est rejeté et que le messager semble être vaincu. C'est là que Dieu entre en scène. Son message est terminé. Noé, je termine maintenant. Noé a prêché à la porte de son arche pendant 120 ans, jusqu'à ce que, finalement, quand ils se sont moqués de lui, Noé est entré dans l'arche, en pensant que tout irait bien. Dieu a fermé la porte, et les gens restaient autour pour voir ce qui allait se passer. Il y est resté pendant 7 jours, et il a passé des moments très difficiles. Et le 7e jour, la pluie est venue. Oui, Moïse. Dans quoi était-il? En plein exercice de ses fonctions, en train de conduire le peuple. La mer Rouge lui a barré le passage. Il était au bout du chemin. C'est là que Dieu a fait souffler un vent d'Orient qui a fondu la mer, au bout du chemin. C'était Daniel. Il s'en est tenu à son message. Je ne me souillerai pas avec la société de ce roi. Il est resté fidèle à Dieu. Il était vraiment au bout du chemin. Il semblait que sa fin était venue. Il l'avait jeté dans la fosse au lion. Dieu est entré en scène. Et un matin, au loin, là-bas, à Babylone, amen, je peux lever les yeux au ciel. Je peux voir un trône entouré d'anges. En baissant les yeux ici, à Babylone, je peux voir une fournaise ardente. Je peux voir 3 enfants qui se tiennent là. Ils disent, « Notre Dieu peut nous délivrer. » Voyez, mais nous n'allons pas nous prosterner devant votre image, car c'est contraire à la parole. Voyez, voilà notre position. D'accord, a dit le roi, montez les marches, on va vous brûler. Il y avait un grand homme costaud au bout de cette lance. Ils ont monté les marches, pas à pas. Il faisait de plus en plus chaud. Je peux voir un ange qui était là, un seul, à côté du trône. Il a saisi une épée, il l'a dégainée, il a dit, « Père, regarde ce qui se passe là-bas, laisse-moi descendre. Je suis Gabriel, je changerai la scène. Rengaine ton épée, Gabriel. J'ai vu ce qui se passe. » Un autre s'est approché. Il a dit, « Père, je suis absinthe, je détruis par l'eau. » À l'époque antédiluvienne, les hommes avaient péché et maltraité ton peuple. Et j'ai transformé le monde entier en un globe aquatique. J'effacerai Babylone de la carte ce matin. Laisse-moi y aller. Je sais que tu y arriverais, absinthe. Tu es un ange fidèle, voyez, mais je ne peux pas te laisser y aller. Ça, c'est mon travail. J'irai moi-même. Voilà, tu les as vus? Je les ai observés toute la nuit. J'ai entendu leur réunion de prière. J'ai vu leur position pour ma parole. Je serai là à l'heure. Oh là là, je peux le voir se lever, ses vêtements royaux descendre autour de lui, comme ça, et dire, « Venez ici, vent d'Orient, du Nord, du Sud, d'Occident !» Passez là-bas, sous le cœur de l'orage. Je vais vous chevaucher comme un char ce matin. Je descends à Babylone. Je vais changer la scène. Oh, frère, il était là, à l'heure pile. Il a l'œil sur le passereau. Et je sais qu'il veille sur moi. Il veille encore ce soir. Il veille sur moi. Il veille sur vous. Il a veillé pour voir si nous tiendrions bon ou non, quelles décisions nous prendrions, si nous resterions fidèles à la parole ou si nous nous en éloignerions. Il est plus tard que vous le pensez. Jacob, sur le chemin du retour vers la maison, il avait eu l'inspiration de rentrer à la maison. Son frère allait le rencontrer. Oh, mais une nuit, il a lutté avec Dieu. Il avait peur de rencontrer son frère. Mais le lendemain matin, ce prince était sans peur et il boitait. Je n'ai pas besoin d'Ésaü ni de son armée, ni l'un ni l'autre. Dieu est entré en scène. Voyez-vous, il agit d'une manière étrange. Jésus, rejeté, après avoir été le Fils de Dieu confirmé, il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Il était la lumière du jour. Il est encore la lumière. Il est entré en scène. Et les gens, tant qu'ils pouvaient, du pain, des poissons et des pains, ils le suivaient. Mais quand il s'est mis à leur dire la vérité de la parole, cela les a séparés. Ils avaient leur propre tradition auxquelles ils se sont accrochés. Elle était contraire. Pourtant, vous savez qu'il correspondait parfaitement à l'Écriture. Mais les yeux aveuglés du monde ne l'ont pas vu, ni maintenant, ni à aucun âge. Je veux dire, dans son ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Il semblait avoir été vaincu. Si vous remarquez, à partir de ce moment-là, il a perdu sa popularité. Quand il s'est mis à leur annoncer la parole, quand il allait tenir des services et des campagnes de guérison, tout le monde voulait de lui. « Oh, Rabbi, venez par ici !»« Eh, Rabbi, venez par ici !» Mais quand sa doctrine a commencé, « Oh, ton enseignement dérange notre peuple !» Oh, miséricorde! Oh, je ne peux plus te recevoir dans mon église, Rabbi! Parce que, eh bien, tu embrouilles notre peuple! Ton enseignement est tellement contraire à ce que nous croyons! Cela n'a pas changé, voyez? Pas du tout! Oui? Je ne peux pas te recevoir, Rabbi! Pourtant, il avait été confirmé. Les Écritures prouvaient qui il était. Mais ils n'y ont pas cru. Finalement, il a continué jusqu'au dernier instant, où Satan s'est dit, « Je l'ai eu. » Il l'a crucifié sur la croix. Il déclinait, jusqu'à ce que finalement, ils ont pensé qu'il l'avait eu. Ils l'ont mis dans le tombeau. Mais c'est à ce moment-là que Dieu est entré en scène. Et voici qu'il est sorti du tombeau. Pourquoi? La même chose. Paul, il a dit, « Tous, Démas m'a abandonné. » Tous m'ont abandonné à cause de la parole. Je ne crois pas que Démas est allé à des boîtes de nuit et tout, mais Démas voulait partir. Démas était un homme riche et il voulait suivre le groupe populaire. Alors il est allé là où tous les autres étaient allés. Alors Paul a dit, tous m'ont abandonné. Pourquoi? Il arrivait à la pierre de fait de son ministère. Il s'approchait de la fin. Son désir était d'être un martyr parce qu'il avait tué Étienne. Il avait été témoin de sa mort et c'est lui qui avait approuvé cela. Il désirait mourir quand le Agabus, ce prophète célèbre, était allé vers lui et lui a dit de ne pas monter à Jérusalem. Il a dit, « Je sais que je ne devrais pas y aller. Non seulement je suis prêt à aller à Jérusalem pour être lié de chaînes, mais je suis prêt à aller mourir pour le Seigneur Jésus. » Qu'est-ce que c'était? Il scellait son ministère. Oh, Église du Dieu vivant, on pourrait parler toute la nuit. Comment allons-nous sceller notre message? Comment allons-nous le faire? Que Dieu nous aide à prendre cette parole, à rester fidèle. Que je meure par la parole. Que je vive par la parole. Que je meure par la parole. Diffusez la lumière, car vers le soir, la lumière paraîtra. Nous sommes à cette heure-là, mes amis. Croyons-le, alors que nous courbons la tête. D'abord, je m'excuse de vous avoir gardé tout ce temps, pendant 2 heures, 1 h 45 minutes, je pense, c'est exact. J'espère que rien n'a causé du tort. Nous ne cherchons à offenser personne, que si c'est ce qui est dans notre, cœur et dans notre âme, alors nous sommes nous-mêmes dans l'erreur. Si nous, les ministres, mes frères, ici, ces hommes remplis du Saint-Esprit, ne faisons que dire ces choses. Voyez, quand j'étais sauvé et que j'ai dit à mon pasteur baptiste que j'avais reçu le Saint-Esprit et toutes ces choses-là, et que l'ange du Seigneur m'avait dit quoi faire, il a dit, « Tu as dû faire un cauchemar, Billy. » J'ai dit, « Docteur Davis, j'ai vu un ange. » Il a dit, « Que d'absurdité !» Il a dit, « C'est du diable, ça !» Voyez, oh là là, ça m'a vraiment fait de la peine. Il a dit, « Toi, tu vas prêcher à des rois et à des potentats ?» J'ai dit, « C'est ce qu'il a dit. » Il a dit, « Avec seulement des études primaires ?» J'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, qui penses-tu va écouter? Tu vas aller prêcher la guérison divine dans un temps comme celui-ci, où il y a toutes les excellentes recherches médicales et tout? J'ai dit, ce n'est pas mon affaire de savoir combien de Goliaths sont là. Il a dit, qui penses-tu va t'écouter? J'ai dit, si c'est Dieu qui m'envoie, il y aura quelqu'un pour m'écouter. Je ne savais pas que des gens comme vous existaient à ce moment-là. Et quand je suis venu chez vous, c'était comme enfiler un gant sur la main. Je me sens tellement à l'aise avec vous. Je vous aime. Je vous aime. J'aime mes frères pasteurs. Vous pensez qu'un presbytérien, un méthodiste ou un luthérien ouvrirait son église comme ce frère l'a fait ce soir pour que nous y entrions et que nous prêchions ce genre de message? Non, monsieur, pas du tout. Voici de braves hommes qui croient la vérité. Maintenant, alignez-vous sur la parole avec eux. Voyez-vous, tenez-vous loin des choses du monde. Mes sœurs, laissez vos cheveux pousser. Portez vos jolies robes soignées. Honte à vous. Démaquillez-vous le visage. Voyez, vous avez plus de passages de l'Écriture contre le maquillage que vous en avez contre la coupe de cheveux. C'est vrai. Ne le faites pas. Ne le faites pas. La Bible dit que c'est une chose déshonorante pour une femme de le faire. La chevelure d'une femme, c'est sa gloire. Maintenant, vous dites, c'est une petite chose. C'est bien. Débarrassons-nous de petites choses. Ensuite, nous pourrons parler de grandes choses. Prenons un bon départ. Maintenant, mes frères, oh là là, je vais dire une chose aux hommes. Monsieur, mon frère, si vous laissez votre femme faire une chose pareille, j'ai honte de vous. Vous qui prétendez être un homme rempli de l'esprit, honte à vous, qui permettez à votre femme d'aller dans la rue et que vous êtes habillé de façon toute sexy et tout, comme ça. Et savez-vous que la Bible dit, Jésus a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. » Vous dites, « Hé, une minute, mon frère, je suis innocente. Moi aussi, je crois que vous l'êtes, ma sœur. Vous êtes innocente quant à l'acte naturel. Mais si vous vous exhibez et qu'un pécheur vous regarde, alors que vous vous êtes exhibé de cette manière, qui est coupable? C'est vous. Car vous vous êtes exhibé. Alors, au jour du jugement, quand ce pécheur répondra pour l'adultère, avec qui l'aura-t-il commis dans son cœur? Avec vous. Pourquoi? Parce que vous vous êtes exhibé. Or, c'est tout simplement la vérité. Ne voulez-vous pas? Ne voulez-vous pas, ma sœur, s'il vous plaît? Au nom de Jésus, puis-je vous demander, en tant que votre frère, de mettre votre vie en ordre? Mon frère, honte à vous d'avoir conduit votre maison comme ça. Mettez votre vie en ordre. Je m'attends à mieux que ça de vous, en tant qu'homme. Voyez, les pasteurs qui permettent à ces gens d'entrer, de devenir des diacres et tout le reste, et de remplir de telles fonctions, alors qu'ils ont deux ou trois femmes en vie et tout. N'avez-vous pas honte, ministre? N'avez-vous pas honte de ces choses? Ils accueillent ces membres alors qu'ils vivent dans l'adultère, qu'ils fument la cigarette et qu'ils font toutes sortes de choses. Et n'en parle même pas de l'estrade. Honte à vous. Je prie pour vous, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre patience, de me supporter. Maintenant, je me demande, la lumière du soir est venue. La lumière du soir est ici, de retour à la parole. Maintenant, alors que vous avez la tête inclinée, le cœur incliné, posez-vous cette question. Suis-je à la hauteur de cette parole? Y suis-je? Du haut de cette estrade, ma prière c'est, ô Dieu, retranche de moi tout ce qui n'est pas à ton image. Ô Dieu, ôte cela de moi. Nous sommes là, au bout du chemin. Très bien, seriez-vous assez sincère pour lever les mains et dire, ô Dieu, retranche de moi tout ce qui n'est pas à ton image. Forme-moi, Seigneur, façonne-moi et forme-moi. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est pas en règle, qui est un pécheur, qui a dérivé et qui n'a jamais accepté Christ comme son sauveur, ou un rétrograde ou autre, et qui veut revenir, vous êtes invité à venir vous tenir ici à l'autel. Si vous croyez que Dieu exaucerait mes prières pour les malades, je crois qu'il m'entendra. Et vous et moi, ensemble, alors que nous plaçons notre foi dans le sacrifice, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et que nous prions, je crois que Dieu nous exaucera. Vous êtes invités à venir vous tenir ici pour la prière. Maintenant, notre Père Céleste, nous te donnons cet auditoire, ces paroles entrecoupées. Ça a été long, Seigneur, au point que beaucoup se sont sentis fatigués et épuisés. Ils sont rentrés chez eux. Et peut-être que certains se sont sentis un peu mal à l'aise. Et Seigneur, je ne sais pas toujours qui est dans l'auditoire. Et après tout, Père, c'est ta parole. Et tu connais mon cœur. Alors, et je, malheur à moi si je ne le fais pas. Et je dois le faire, Seigneur. Alors je prie maintenant que les gens qui ont l'intelligence par la parole comprennent clairement. Et je suis sûr que ceux que tu as appelés à la vie comprendront que ce n'est avec rien d'autre qu'un cœur plein d'amour pour Dieu et pour son Église que j'implore ces choses. Père, pratiquement toutes les mains qui sont ici se sont levées pour demander une circoncision, pour retrancher tout ce superflu qui n'a pas sa place là. Ô Dieu, aide-nous tous. Je me tiens avec eux, Seigneur. Je suis l'un d'entre eux. J'attends la venue du millénium, ce jour béni où le péché et la honte seront détruits pour toujours. Et Père, pendant que nous sommes dans ce monde, nous savons que nous sommes sujets à ces choses. Nous sommes sujets à l'erreur. Nous sommes sujets au péché. Nous marchons toujours et pourtant, nous ne désirons pas le faire. Comme la Bible dit, ne perdez pas courage quand on vous réprimande. Mais je prie, Père, que la réprimande de la parole me taille tout autant qu'elle taille les autres. Et je prie, Père, qu'ils le comprennent ainsi. Je te prie de les bénir maintenant. Et puis cela, comme nous avons prié avant, Seigneur, nous savons et nous surveillons ce que nous demandons, car nous ne voulons pas demander en vain. Nous ne voulons pas demander quelque chose qui ne soit que des mots, parce que c'est à toi que nous nous adressons. Je te demande de bénir notre jeune frère ici qui a ouvert sa porte pour que je vienne ce soir. Je te prie de bénir son Église et puis chacun des membres de son Église, Seigneur. Simplement, puisse celle-ci être un phare, un lieu où les dons de Dieu coulent et où tout se passe très bien. Bénis tous les ministres qui sont assis ici et leurs églises. Et puisse-t-il y avoir une telle secousse ou un bruit qui retentit dans les mûriers de l'Esprit de Dieu parcourant Phoenix d'un bout à l'autre et amenant les églises à la communion fraternelle et à un grand réveil, si bien que les ministres n'arriveront pas à prêcher à cause de la gloire de Dieu, mais quand les saints se réuniront tôt dans l'après-midi, qu'il y ait des cris, des prières, des témoignages et des messages, que ce soit une véritable effusion de l'Esprit, au point que toute la ville sera attirée pour venir écouter. Accorde-le maintenant. Guéris les malades qui sont parmi nous, Seigneur. Donne-leur la délivrance divine, Père, par le nom de Jésus-Christ. Maintenant, alors que nous avons la tête inclinée, s'il y en a ici qui désire se tenir tout près de l'autel maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, nous allons simplement fredonner un petit chant, un bon vieux chant de l'Évangile. Nous voulons fredonner cela. Pendant que nous le faisons, s'il y a quelqu'un qui désire que nous prions pour lui, pour une expérience plus profonde, pour recevoir le Saint-Esprit, ou si vous êtes sauvé et que vous n'avez pas encore été sanctifié, ou quoi que ce soit, nous serons heureux de le faire pendant que nous fredonnons ce petit chant. Je l'aime. Et si vous l'aimez vraiment, alors respectons sa parole. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Pendant qu'il s'approche, je veux que chacun prenne sa place ici maintenant. Très bien, ma sœur. L'aime. Je l'aime. Parce qu'il... Approchez maintenant, autour de l'autel, vous qui voulez venir maintenant. Premier et a acquis mon salut du calvaire. Pourquoi certains d'entre vous, les sœurs aux cheveux courts, ne venez-vous pas ici pour prendre un engagement vers Dieu? Vous voulez que je vous le lise dans la Bible? Très bien. Ne voulez-vous pas venir dire, « Seigneur, je veux être en règle en toutes choses et je veux prendre un bon départ et je veux me rendre sur le droit chemin et y rester. Je vais prendre un engagement envers toi ce soir, Seigneur. Ça va croître à partir de maintenant. » La Bible dit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Il a l'air d'une femme. Dieu a fait deux alliances, une avec Adam et l'autre avec Ève. Il les a habillés différemment. Ils sont complètement différents. Ils ont toujours été différents. Il y a deux alliances d'un bout à l'autre de la Bible. Un soir, je voudrais prêcher sur cette double alliance, un jour, pour vous montrer ce qu'est la différence. Oh là là, c'est extraordinaire. C'est même dans vos questions sur le mariage et le divorce. Si seulement vous connaissiez la vérité là-dessus, cela réglerait toute l'affaire. C'est vrai. Très bien. Encore une fois, alors que nous sommes certains maintenant, venez, ne le voulez-vous pas? Je l'aime. Vous avez besoin du Saint-Esprit? Avancez-vous, tenez-vous ici. Parce qu'il m'a aimé, le premier. Vous voulez marcher plus près de lui? Venez, faites un vœu. Tenez-vous à ses côtés et respectez-le. Ça ne servira à rien de faire un vœu si vous ne le respectez pas. Sûr, vous pouvez venir faire votre vœu. Dieu doit l'accomplir. Vous, tenez-vous-en simplement à votre vœu. Maintenant, je vais demander à mes frères dans le ministère de bien vouloir descendre maintenant ici. Tenez-vous autour de ces précieuses personnes pendant que nous prions ici. Demandez à chacune d'elles quels sont leurs besoins maintenant. Alors que nous sommes ici, que tout le monde soit aussi respectueux que possible. Maintenant, Dieu vous honorera. Soyez simplement très respectueux jusqu'à ce que l'on ait fini de prier. Vous pouvez venir tout autour maintenant, là, tout autour, là, et derrière ces gens qui se tiennent ici pour la prière. Sur le bois du calvaire. Encore une fois, pendant que les ministres se regroupent des deux côtés. Je l'aime. J'aime voir ça. Les ministres de différentes organisations, toutes confondues dans une seule maintenant, sous le sang. Parce qu'il m'a aimé, le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Oh là là! Maintenant, mes frères, approchez-vous directement de la personne qui se trouve à côté de vous. Posez votre main sur elle et demandez-lui ce qu'elle désire que Dieu lui donne. N'est-ce pas un moment merveilleux? Vous savez, quand je vois ça, regardez ici, les ministres de différentes églises, ils se tiennent ensemble tout autour. Les sœurs qui étaient sur ces brancards se sont levées. Elles les ont quittées là. Gloire au Seigneur. Nous en sommes si reconnaissants. Elles sont debout au nom du Seigneur. Maintenant, que tout l'auditoire, maintenant, que tout le monde courbe la tête. Chacun de vous maintenant, dans votre cœur, parlez simplement à Dieu comme si vous vous adressiez à moi, comme si vous veniez me dire, « Frère Branham, si vous avez fait quelque chose de mal, vous diriez, « Je suis désolé, Frère Branham, j'ai fait ça, voulez-vous me pardonner pour ça ?»« Je vous promets, Frère Branham, que je ne le ferai plus jamais contre vous. » Maintenant, passez simplement de mon nom, de moi, à votre Seigneur, Jésus-Christ. Et si vous avez besoin de la guérison, comme si vous veniez me dire, « Frère Branham, je suis fauché, je n'ai pas eu de souper ce soir. » Mais oui, je sais que si tu avais un dollar, tu me le donnerais. Maintenant, voyez-vous, vous n'avez pas à dire à Dieu, « Si tu as la puissance de guérison, il l'a. » Voyez-vous, à moi, il faut dire, « Si tu as ça. » Mais à lui, vous n'avez pas à dire, « Si tu as ça, il l'a. » Voyez, donc, vous diriez, disons, « Frère Branham, voudriez-vous me donner un dollar? J'ai besoin de quelque chose à manger. » Eh bien, naturellement, que je le ferai. Vous le savez, si je l'avais, je vous le donnerais n'importe quand. Je serais sans cœur si je ne le faisais pas. Si moi, un homme cruel et pécheur, je serais aussi bon vers quelqu'un comme vous, qu'en serait-il de Dieu? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit à ceux qui le lui demandent? Si vous demandiez un poisson, vous donnerait-il un serpent? Si vous demandiez du pain, vous donnerait-il une pierre? Certainement pas. Eh bien, si vous lui demandiez simplement de cette façon-là, avec la foi, en croyant cela, vous obtiendriez cela de lui un million de fois plus vite que vous obtiendriez quoi que ce soit de moi. Et vous savez que je vous aiderai. Je ferai tout ce que je pourrai. N'importe lequel de ses frères le ferait. Nous dénicherions chaque sou de notre poche pour vous aider. Nous ferions tout ce que nous pourrions. Mais ceci, c'est quelque chose que vous devez croire par la foi. Maintenant, croyez que vous le recevrez pendant que nous prions, et que vous priez, et que l'auditoire prie. Et je crois que Dieu descendra et honorera notre prière. Et à l'instant même, vous ressentez que vous l'avez, que Dieu va exaucer votre prière. Alors, vous avez fait une alliance. « Seigneur, j'ai mal agi. Je ne le ferai plus. Je lève la main. Je te promets que je ne le ferai plus. » Dieu vous prendra au mot, et croyez que ce sera ainsi, et tout sera réglé. Alors, levez simplement les mains et remerciez-le. « Seigneur, j'ai fait mon vœu. Je sais qu'il est à toi. Tu as promis de l'exaucer, et tu ne peux pas faillir. Père Céleste, nous, tes serviteurs, nous sommes auprès de ce groupe qui s'est avancé et qui a besoin de tes bénédictions et de ton attention en ce moment. Père, ce sont des trophées du message. Au temps de la lumière du soir, bon nombre d'entre eux, Seigneur, sont en train de confesser. Certains d'entre eux ont désespérément besoin d'aide. Je te prie, ô Dieu, au nom de Jésus, de ne pas rejeter un seul d'entre eux, car tu tiendras ta parole. Je te rappelle ta parole, Seigneur, comme Pierre et les disciples, quand ils ont prié dans Acte 4, ils ont dit, « Seigneur, souviens-toi de la parole. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? Maintenant, Père, nous présentons ta parole. Tu as dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh, faisons connaître nos requêtes à Dieu et il nous exaucera. Il a, avec abondance, celui qui confessera ses péchés sera pardonné. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et nous confessons nos fautes. Je confesse les fautes des gens. Je confesse mes propres fautes. Je réclame la miséricorde. Je réclame la guérison. Je réclame la grâce. Je te demande de répandre le Saint-Esprit, Seigneur, maintenant, sur ces gens qui sont dans l'attente pour que leur vie devienne un bloc de moulage de Dieu et qu'elle soit façonnée à l'image du Fils de Dieu afin que l'Esprit qu'il a vivifié entre dans leur corps et fasse d'eux des fils et des filles de Dieu. Accorde-le, Seigneur. Nous croyons que tu es présent. Nous croyons que tu honoreras ta parole. Nous croyons que tu honoreras les efforts de la parole. Maintenant, envoie ces bénédictions sur ces gens alors qu'ils attendent que ta présence les visite ici à l'autel. Au nom de Jésus. Maintenant, si vous croyez et que vous croyez que vous l'avez reçu, levez la main vers Dieu. Si vous acceptez cela comme étant une prière de la foi et votre vœu, alors que vous vous tournez maintenant vers Dieu, levez les mains et que l'auditoire se lève. Tout le monde, levez-vous. Celui qui veut prendre un engagement vers Dieu, dites maintenant, je le crois, je l'accepte, je le crois. Maintenant, levez les mains et donnez-lui la louange et tout sera terminé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté et ta miséricorde et pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous te donnons la louange par Jésus-Christ.